7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 juin. Michel Platini, sorti de sa garde à vue pendant la nuit, il s'est exprimé à notre micro Europe 1, on l'entendra dans quelques instants. Il s'agit de l'enquête sur les soupçons de corruption autour de l'attribution de la Coupe du Monde de foot au Qatar. À 7h20, notre enquête exceptionnelle sur le trafic de cocaïne qui explose entre la Guyane et la métropole. Nous avons rencontré des mules, vous savez, ces petites mains qui font passer la drogue. Document à ne pas manquer dans Europe 1, va plus loin. Faut-il taxer les plaisanciers pour financer les sauveteurs en mer? Oui, dit le député communiste Sébastien Jumel, après le drame qui a endeuillé la SNSM. Le 7 juin dernier au Sable d'Olonne, il présente aujourd'hui une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Il sera mon invité à 7h45. La tournée d'adieu d'Elton John pour sa première étape en France. Il était à Lille hier soir. On vous fera vivre le concert comme si vous y étiez dans le journal de 7h, dans quelques secondes avec Hélène Zellani qui danse déjà. Voilà pour le programme, on est ensemble jusqu'à 9h. Merci de votre fidélité. Bon réveil à tous.
Très bon réveil en ce jeudi 20 juin. Il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Tiens, nous sommes à l'heure. Bonjour Hélène Zellani.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la lune de l'actualité ce matin.
15 heures de garde à vue pour Michel Platini, l'ex-patron de l'UEFA, est ressorti libre après avoir été entendu sur l'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Première nuit en prison pour le chauffard de Lorient, il comptait envoyer une lettre aux médias pour dire qu'il n'était pas un meurtrier. Et puis la boulette, de nombreux lycéens qui passaient le bac français des séries S et ES avant-hier sont tombés sur un poème d'André Chédide. Problème, ils ont cru que c'était un homme.
C'est la grand-mère de Mathieu Chédide.
Évidemment.
Et c'est une philosophe, entre autres. 8h15, l'invité d'André Crespo-Mara sera Louis Alliot, député du Rassemblement national et candidat à la mairie de Perpignan.
Europe 1. Il était 1h du matin quand Michel Platini est ressorti des locaux de l'Office anticorruption de la police judiciaire à Nanterre. L'ancien patron de l'UEFA était interrogé dans l'enquête sur les soupçons autour des conditions d'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une longue journée d'audition qu'il a perçue comme injuste. Jehan Bergaoui l'attendait à la sortie.
Il a les yeux rougis, cernés et le sourire d'un homme un peu désabusé. Michel Platini pensait venir à l'Office anticorruption pour une audition libre. Il y sera resté 15 heures en garde à vue.
Ça a été long, mais vu le nombre de questions, ça devait être que long, puisqu'on m'a quand même posé des questions sur l'Euro 2016, la Coupe du Monde en Russie, la Coupe du Monde au Qatar, le Paris Saint-Germain, la FIFA. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de thématiques. Et donc j'ai répondu, voilà, tranquille à tout ça, en sachant pas pourquoi je suis là, quoi. Mais bon, il fallait répondre à toutes ces questions, je l'ai fait.
Vous avez le sentiment de faire l'objet d'un acharnement?
Ça fait mal, quoi. Hein. Ça fait mal pour tout ce que je peux penser, tout ce que j'ai fait, ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, après, ils ont fait leur boulot et puis on a essayé de répondre à toutes les questions. Voilà. Et c'est pour ça que je suis désolé d'être si tard avec vous.
À ses côtés, son avocat William Bourdon dénonce une audition injuste et hors de proportion. Pour lui, cette garde à vue, c'est beaucoup de bruit pour rien.
Jehan Bergaoui.
Il aura tenu 9 jours. Le chauffard de Lorient a finalement été arrêté et mis en examen hier.
Arrestation dans un hôtel à quelques kilomètres du lieu du drame. L'un des enfants qui l'a renversé n'a pas survécu. L'autre est toujours entre la vie et la mort. Placé en détention provisoire, il est mis en examen, notamment pour homicide involontaire. Le journal Ouest France révèle ce matin que pendant sa cavale, il avait écrit une lettre aux médias qu'il n'a jamais envoyée pour dire « je ne suis pas un meurtrier ». François Coulon est à Lorient pour Europe 1.
Pourquoi une si longue cavale? Kylian Le Reste a d'abord eu peur, indique son avocate, puis il a été extrêmement choqué d'apprendre qu'il avait ôté la vie à un enfant. Il s'est alors enfoncé dans sa fuite. A-t-il bénéficié de soutien? Pas de réponse. Le jeune homme affirme avoir peu dormi et peu mangé. Il aurait vomi et beaucoup pleuré. Kylian Le Reste avait écrit une lettre jamais envoyée à l'attention des médias. « Je ne suis pas un meurtrier », écrivait-il, regrettant vraiment ce qui s'est passé et affirmant être désolé pour les familles et les proches des victimes. Ces dernières ont appris avec satisfaction l'arrestation du fuyard, leur ami Ahmed Makas.
C'est un soulagement. On espère maintenant que justice sera faite. C'est-à-dire qu'ils prennent la peine maximum qu'ils puissent prendre. Et ça, on fait confiance à la justice pour que ce soit exemplaire, qu'on sache vraiment ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, où il s'est caché, qu'on sache tout sur cette histoire. Il y a besoin pour la famille aussi. De partir comme ça, laisser un enfant de 9 ans et l'autre de 7 ans par terre, c'est quand même quelque chose qui doit rester sur sa conscience, qui ne s'est pas rendu. Et ça, c'est inacceptable. C'est impardonnable.
Le petit Samet, 7 ans, reste plongé dans le coma. Son pronostic vital est toujours engagé. Lorient, François Coulon, Europe 1.
La France, premier pays au monde anti-vaccin. C'est ce que révèle une enquête qui porte sur 144 pays. Un tiers des Français pensent que les vaccins ne sont pas sûrs.
Europe 1, il est 7h03.
Les opposants à la privatisation des aéroports de Paris se mobilisent.
Affiches, tracts, vidéos, sites internet, la gauche lance une campagne pour recueillir les signatures nécessaires au référendum d'initiative partagée, le RIP. Il en faut quand même 4 700 000. Le député de la France Insoumise, François Ruffin, fervent opposant au projet, estime que l'État fait tout pour bloquer ce référendum.
On a un référendum d'initiative partagée, c'est national, mais normalement c'est au gouvernement de faire du boulot d'information là-dessus. On sait qu'ils ne feront pas ce travail, donc c'est à nous de le faire. On fait des documents qui ne sont même pas des tracts, parce que c'est juste sur informer les gens que ce référendum existe. Ce que nous avons à faire, c'est même pas un travail de conviction pour dire aux gens, soyez contre la privatisation des aéroports de Paris, mais juste les informer qu'un référendum est en cours. Parce qu'ils ne le savent pas et le gouvernement fera tout pour qu'ils ne le sachent pas. Et ensuite, même quand ils le savent, on voit bien que le gouvernement fait de son mieux pour avoir un site qui fait que c'est hyper compliqué de pouvoir signer ce référendum d'initiative partagée. On va contraindre le gouvernement à se dire, mais c'est la honte d'avoir un truc pareil, quoi.
François Ruffin, micro Europe 1 de Maya Sido.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal de 7h avec Hélène Zélani. Et pour certains élèves, vous allez le voir, le bac français s'est révélé encore plus dur qu'ils ne l'imaginaient. On va vous expliquer pourquoi. A tout de suite sur Europe 1.
Votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani, c'était lundi, le bac français pour les élèves de première. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que certains sont tombés sur un os.
En l'occurrence, les élèves de première S et ES qui choisissaient le commentaire. Ils ont dû plancher sur un poème assez complexe d'André Chédid, intitulé « Destination arbre ». Mais beaucoup ne se sont même pas rendus compte qu'André Chédid était une femme, Ève Roger.
Sur les réseaux sociaux, l'avalanche de tweets de candidats députés exprime bien leur méprise. Non, ils ne savaient pas qu'André Chédid, mère de Louis et grand-mère de Mathieu Chédid, était une femme, une poétesse même. D'ailleurs, pour Pablo, ça a été moins une.
Sur le début, j'ai commencé à écrire « il » tout le long. Et en fait, c'est en relisant le texte une deuxième fois que j'ai vu le André. Du coup, j'ai modifié tous les « il » en « elle ». Donc, j'ai fait pas mal de ratures, mis un peu de blanc partout. Mais bon, la plupart de mes amis, ouais, bien 90%, ils ont mis l'auteur sans eux ou « il » tout le long de leurs commentaires.
Mais pas de panique. Que les élèves de première n'aient jamais entendu parler d'André Chédid, ce n'est pas grave, explique Françoise Cahen, professeure de lettres. Ce qui est plus gênant pour elle, c'est que beaucoup n'aient même pas imaginé, grâce au « e » à la fin du prénom, que la poésie pouvait être signée par une femme.
Cette faute, elle est révélatrice du fait que les élèves ne sont pas habitués à voir des autrices au programme du bac. Cette confusion est vraiment un symptôme de cette trop grande discrétion des femmes dans les pratiques des enseignants.
Certains élèves font déjà courir la rumeur sur Internet que l'erreur coûterait 2 points, mais la prof rassure au contraire. Une grande clémence a été demandée au correcteur.
Ève Roger, et une pétition a même été lancée pour demander une notation plus clémente. Elle rassemble pour l'instant plus de 17 000 signatures.
Allez, une petite citation d'André Chédid si on a le temps et on ne l'a pas. Comment peut-on se prendre au sérieux quand l'existence est si éphémère et qu'elle ne cesse de courir vers sa fin ? Elle aurait ri de tout cela, j'imagine.
Sans doute. Je lance officiellement ma campagne pour un deuxième mandat. Annonce officielle de Donald Trump tout à l'heure devant 20 000 supporters enthousiastes à Orlando en Floride. Le président américain a accusé ses adversaires politiques de vouloir détruire le pays. Reportage à 7h30. Et puis c'était l'une des images marquantes de la journée d'hier. Angela Merkel assistait à une cérémonie officielle à Berlin sous une température de 30 degrés. Elle a été prise de tremblements pendant de longues minutes. Elle a expliqué plus tard qu'elle avait été victime de déshydratation et qu'après 3 verres d'eau, ça allait beaucoup mieux.
C'était très impressionnant. J'avais mal pour elle. Regardez les images sur le site d'Europe1.fr. Une dernière tournée mondiale à 72 ans pour Elton John.
Oui, 300 dates. La première en France, c'était hier soir à Villeneuve-d'Ascq, tout près de Lille. Elton a totalement emballé son public, Jean-Gabriel Bourgeois.
Lunettes bleues scintillantes et costume sombre au col à paillettes bleues, rouges et blanches, Elton John s'installe au piano dans un stade survolté. Le génie de la pop salue son public en français.
C'est le 100e spectacle de Farewell Yellow Brick Road ce soir. 100e.
Pendant plus de 2h30, la légende vivante enchaîne 50 ans de tubes. Percussion, guitare, piano et surtout la voix d'Elton John.
Il n'a pas perdu sa voix, malgré son âge.
Les frissons, l'émotion, magnifique.
C'était un beau concert.
L'apothéose d'une carrière, génial.
Franchement, la claque.
C'est dommage qu'il s'arrête, hein.
Je voudrais le revoir encore, je voudrais que ça continue encore toute la nuit. I will miss
you very much. La tournée d'adieu de Sir Elton John va durer encore un an et demi et plus de 200 concerts jusqu'à Londres en décembre 2020. Villeneuve d'Ascq, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Elton Magnifique. John qui sera à Bercy demain soir.
Votre chanson préférée d'Elton John? Merci. Et la vôtre?
Candle in the Wind, comme on vient de... Bah, évidemment.
Il y a aussi I'm Still Standing.
Mais oui. Magnifique.
Ils sont forts en régie. Romain et Nicolas, merci beaucoup Hélène Zélani. Il était super votre journal ce matin. À demain.
Merci pour les...
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Comme non. Tous vos journaux, non, qu'est-ce que vous voulez dire?
Ils sont super Nico... tous les jours, je fais toujours des gaffes moi. Mais celui-là particulièrement. D'ailleurs, tiens, je suis sûr que le reportage de Martin Fenot sera exceptionnel. Vous êtes tous ce matin, Martin.
Bonjour Nikos.
Bonjour.
Alors je suis à Nice ce matin où une application pour smartphone a été inventée. C'est une application qui a mis fin au cauchemar que vivaient certaines victimes de cyberharcèlement. Ça s'appelle Bodyguard. Alors c'est très simple. Si vous recevez des messages d'insultes, des commentaires déplacés après avoir posté une vidéo sur YouTube ou une photo sur Twitter, eh bien cette application les identifie grâce à un algorithme et les fait disparaître avant même que vous ayez le temps de les lire. J'ai rencontré Maxime. Sa vie a changé radicalement après avoir été harcelé pendant 5 ans sur les réseaux sociaux.
Quand c'est des insultes qui s'enchaînent par centaines, toutes les heures, on s'enferme en fait dans une bulle où on est face à de la haine pure, ça ne s'arrête pas. On va vraiment se mettre à douter de soi, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est bien. Tout ça va détruire la confiance qu'on a en soi.
Et tout ça résulte de la lecture de ces commentaires haineux. Ça veut dire que s'ils disparaissent, ces commentaires haineux, vous échappez à ça.
Oui, la résultante, c'est qu'on va, moins lire du coup des attaques personnelles, donc on va moins être sujet à des douleurs mentales. Ça va aider en fait à sortir petit à petit de l'emprise en fait que ces gens ont sur nous.
Combien de personnes utilisent cette application, Martin?
Alors, il y a déjà plus de 30 000 utilisateurs. Alex vient de l'installer. Il fait des vidéos où il teste des voitures. Et écoutez bien le nombre de commentaires injurieux que l'application a censuré en seulement 3 semaines.
1385 commentaires supprimés. Donc, c'est-à-dire que là, il y a eu 1400 personnes qui m'ont potentiellement insulté. Je ne veux pas avoir affaire à ce genre de choses. Je ne comprends pas que des personnes viennent m'insulter dans les vidéos par jalousie ou par autre chose. D'ailleurs, je ne sais pas. Parce que c'est bête, mais ça fait quand même mal au cœur.
Oui, mais ça existe, hein, ça fait partie malheureusement du paradoxe des réseaux sociaux. Juste une question, est-ce que les messages sont effacés définitivement du fil, par exemple sur Twitter ou sur YouTube, ou quelqu'un d'autre peut les voir? Parce que, est-ce que ces gens, on les masque ou on les bloque, comme on peut le faire d'ailleurs avec les applications?
Alors en fait, ils sont masqués par l'application qui les garde en mémoire, ce qui vous permet par la suite de les consulter si vous le souhaitez et de pouvoir vous retourner contre les auteurs, de porter plainte. Et une dernière chose, le créateur de Bodyguard travaille en ce moment à une version famille de son application pour que les parents puissent l'installer sur le portable de leurs enfants.
Une loi d'ailleurs sur la haine en ligne est examinée aujourd'hui en commission des lois à l'Assemblée nationale. Merci Martin Fenot pour le reportage.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, Nicolas Barré pour l'édito Écho. Ce matin, on parle de quoi, Jérémy?
On parle de la dette de l'État français qui affiche désormais un taux d'intérêt négatif. Vous expliquer.
C'est bien ou pas bien?
C'est bien pour l'État, vous allez voir.
Mais pas bien pour quelqu'un. Il y a un pas bien dans l'air, il y a un bémol avec vous. À 7h20, notre enquête sur le trafic de cocaïne qui explose entre la Guyane et la métropole. C'est un document qu'on vous propose ce matin. Nous avons rencontré des mules, ces petites mains qui font passer la drogue. Leur méthode, le combat des douaniers, souvent démunis. Dossier complet dans Europe 1 va plus loin. A tout de suite.
Très bon réveil à tous, il est 7h14. Et les 7h15, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Beaucoup de bruit pour rien. Réaction de Maître Bourdon, l'avocat de Michel Platini, après la longue garde à vue de son client qui s'est terminée dans la nuit. L'ex-patron de l'UEFA était interrogé sur les conditions d'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Le financement de la SNSM, à l'ordre du jour de l'Assemblée, le député communiste Sébastien Jumel présente une proposition de loi pour que les plaisanciers paient une cotisation en fonction de la taille de leur bateau. Il sera mon invité à 7h45. Le mondial féminin de foot, qualification des Brésiliennes pour les 8e de finale hier soir. Elles pourraient être les adversaires des Françaises dimanche soir au Havre.
Europe 1. Économie à présent, Nico, c'est l'édito éco avec la Société Marseillaise de Crédit, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Société Marseillaise de Crédit, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
comme tous les matins, avec vous, cher Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Alors, pour la première fois dans l'histoire, le taux de la dette de la France à 10 ans est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est inférieur à 0%.
Exactement, ça veut dire concrètement que ceux qui prêtent aujourd'hui de l'argent à l'État français sont prêts à lui faire un crédit gratuit, et même plus que gratuit. Ils préfèrent perdre un petit peu d'argent en prêtant à la France plutôt que d'investir leur liquidité dans des placements plus risqués. Donc, quitte à placer ses liquidités, autant le faire dans des emprunts de l'État français. C'est sans risque, même si ça rapporte rien du tout. Mmh. Autant dire, c'est quand même le signe d'un système financier qui marche sur la tête.
Pourquoi il marche sur la tête ?
Vous savez, depuis la crise financière de 2008, les banques centrales ont fait chuter les taux d'intérêt justement pour soutenir l'activité. Elles ont acheté d'énormes quantités de dettes des États pour éviter la catastrophe. Oui. Depuis d'ailleurs, elles ont trouvé des raisons supplémentaires de maintenir cette politique. Par exemple, la guerre commerciale en ce moment. Mais cette politique de taux très bas a beaucoup d'effets pervers. D'abord, c'est le paradoxe, ça fragilise le système bancaire, alors que c'était censé sauver les banques. Quand les taux d'intérêt sont à zéro, les banques font moins de marge. Et puis ensuite, ça pénalise tous ceux qui ont de l'argent de côté, qui ont de l'épargne, puisque cette épargne rapporte plus grand-chose, voire rien du tout.
D'accord.
Et puis enfin, ça pousse les entreprises et les ménages à trop s'endetter.
Ouais, mais pour l'État, c'est une bonne affaire. Si
Pour l'État, ça veut dire que la charge de la dette de l'État français, par exemple, va diminuer. Elle est passée de 42 à 37 milliards selon Bercy. Donc vous vous rendez compte, 5 milliards d'économies comme ça qui tombent du ciel. Et ça pourrait encore doubler selon des projets de la Banque de France, mais ça veut dire aussi qu'en fait, l'État fait des économies sans faire aucun effort.
D'accord.
D'ailleurs, la prochaine fois que vous entendrez un ministre se glorifier justement de la baisse des dépenses publiques, vous pourrez dire qu'il exagère un peu. Sous François Hollande, 40% de la baisse du déficit, elle est venue juste de ça, de la baisse des taux d'intérêt. Et bien, ça continue. Et malheureusement, ça veut dire que ça n'incite pas l'État à se réformer, puisque les dépenses baissent toutes seules. Et c'est évidemment très pervers, ça ne pourra pas durer.
La prochaine fois que j'entends un ministre ici, dans la matinale, je lui dis, vous exagérez, monsieur le ministre.
Exactement.
C'est Nicolas Barré qu'il a dit, pour ne pas lui dire vous baratinez. Merci beaucoup, c'était l'édito Écho.
Europe 1, Nikos Aliagas.
Il est 7h18, Europe 1 va plus loin avec Nikos ce matin, une enquête de la rédaction sur le trafic de drogue entre la Guyane et Paris.
Oui, il y a 2 mois, les services de police lançaient un plan renforcé contre l'explosion du nombre de mules. Vous savez, ces personnes qui dissimulent de la drogue pour la transporter dans l'avion entre Cayenne et Orly. Plus de 1300 arrestations l'an passé, un nombre qui a doublé en l'espace d'une année. Les services douaniers aujourd'hui sont totalement débordés et ils tentent de réagir. Bonjour Théo Manval.
Bonjour Nikos.
Vous revenez de Guyane, vous avez suivi à la trace ces mules depuis la frontière avec le Suriname, et c'est bien là, de ce pays frontalier d'Amérique du Sud, que tout commence ?
Oui, nous sommes au bord du fleuve Maroni, tout à l'ouest de la Guyane, de l'autre côté de la rive à 2 km, le Suriname. Des dizaines de pirogues font l'aller-retour chaque jour pour transporter des voyageurs, dont certains reviennent avec une cargaison de cocaïne. Il suffit de discuter 5 minutes avec les jeunes qui attendent ici sur cette plage en demandant qui a déjà fait la mule et pris l'avion jusqu'à Paris pour comprendre l'ampleur du phénomène.
Il a déjà parti au Paris.
Lui là-bas, il l'a fait au mois d'octobre, me dit ce jeune homme en pointant un autre garçon du doigt, tresse courte et dents en plaqué or. Il a emmené 6 kilos de cocaïne scotchés sous ses vêtements, autour des jambes et de la taille. Moi, poursuit celui qui parle, j'ai transporté 800 grammes dans mon corps en avalant des capsules. Un pari risqué mais qui rapporte, puisque selon les douanes, une mule peut recevoir entre 3000 et 10 000 euros par trajet selon la quantité transportée.
Théo Manval, quel est le profil de ces jeunes ? Qui sont ces petites mains des trafiquants ?
Eh bien, un tiers viendrait du Suriname, justement, un autre tiers de l'ouest rural de la Guyane. Les trois quarts sont sans emploi, selon le parquet, et donc attirés par l'appât du gain. Et leurs méthodes sont en train de changer. Ils avalent de moins en moins la drogue. Elle est plutôt cachée sur eux, comme on l'a entendu, ou dans les valises. Ça permet d'en emporter plus. Les quantités saisies par les douanes sont en hausse. 1,7 kg en moyenne par personne interpellée.
Les arrestations, justement, 1300 l'an passé à Cayenne. Ça fait plus de 3 par jour, c'est considérable, mais ce n'est qu'une partie de l'iceberg.
Oui, car les policiers estiment à 8 ou 10 au moins le nombre de mules envoyées pour chaque vol entre Cayenne et Orly. C'est la stratégie de la saturation. Les trafiquants savent que les douaniers n'ont pas les moyens de traiter plus de 2 ou 3 personnes par jour, explique Rodolphe Alexandre, le président de la collectivité territoriale de Guyane.
Une mule, c'est au moins 35 jours de procédure. Donc c'est minimum 2 douaniers, 1 médecin, etc. Donc c'est sûr que les services sont insuffisants. Les médecins, prenons le cas du scanner ou l'échographe, il faut soit un médecin, soit un infirmier pour suivre ces opérations-là.
Donc l'échographe qui est dans l'aéroport de Cayenne aujourd'hui pour déceler la drogue dans les corps...
Il ne fonctionne pas. La police, comme les douaniers, ils sont en trop petit nombre pour pouvoir combattre ce fléau.
Vous le disiez, les autorités ont donc décidé, il y a 2 mois, de lancer ce plan de lutte renforcé. Ça va consister en 4 agents supplémentaires pour les douanes à la frontière d'ici l'été. 2 fois plus de lits carcéraux à l'hôpital de Cayenne. Ça, c'est pour prendre en charge ceux qui ont avalé la drogue. Il y a aussi plus de contrôles, on les voit, sur les routes et à l'aéroport, en Guyane, comme à l'arrivée en métropole.
Alors, un premier bilan doit être fait dans 3 semaines. Est-ce qu'on sait si la méthode commence à porter ses fruits ?
Eh bien, ça dépend sur quel volet, sur le nombre d'arrestations, oui, là c'est tangible. Mais ce n'est que la première étape, écoutez le procureur de Guyane, Samuel Finiels.
Il y a eu beaucoup plus d'interpellations au cours des opérations de dissuasion renforcée. Donc ces interpellations ont été multipliées par 3, voire par 4. Sur les démantèlements des trafics, là on ne voit pas encore totalement les fruits de cette politique. Parce que ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'empêcher les gens de prendre l'avion pour qu'on puisse dégager du temps pour les services d'investigation sur le démantèlement des trafics.
En clair, le flux de mules est tel qu'il faut d'abord essayer de le maîtriser avant de pouvoir s'attaquer au réseau en profondeur. Sachant que la justice, elle aussi, a bien du mal à suivre la cadence, le trafic de drogue mobilise déjà les 3/4 de ces procédures d'urgence dans un territoire, la Guyane, où le reste de la délinquance lui donne aussi beaucoup de travail.
Votre reportage a été passionnant parce que vous êtes allé en immersion dans le quotidien des protagonistes du trafic de drogue. On est seul, on est accompagné, on est protégé, comment on travaille ?
Dans ce cas-là, on est seul. On est seul et on essaye d'aller à la source et de pouvoir discuter avec ceux qui sont là sur cette plage, si c'est de ça dont vous parliez. Finalement, c'est eux qui en parlent le mieux.
Prudence, exigence et la passion qui est votre travail de journaliste. Le fléau du trafic de cocaïne entre Cayenne et Paris. Merci Thomas Neval pour cette enquête exceptionnelle signée Europe 1 va plus loin ce matin.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, Anissé Mbida. On va parler de quoi ?
De colle.
De colle au niveau drogue ou la colle, la vraie colle ? Parce que là, je ne sais
plus. Non, ça c'est la colle qui colle vraiment et qui
colle,
en plus se décolle. C'est de la super glue réversible, la première.
Et hop.
Et
vous vous souvenez de cette pub ?
Exactement.
À tout de suite, Anissé.
Et nous attendons vos réactions sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il est 7h23, bon réveil. Il est 7h25, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour avec Anissé Mbida Nikos.
Là, on est vraiment dans le service, dans le quotidien, parce que ça peut être dangereux de manipuler de la colle extra forte. Si on est maladroit, on peut se retrouver avec les doigts collés, on peut esquinter le mobilier, et on peut même aller aux urgences quand on colle ses doigts. Mais Anissé, vous avez trouvé une super glue qui peut se décoller à la demande.
Oui, c'est un tour de force. Non, ne riez pas, c'est un tour de force des chercheurs de l'université de Pennsylvanie. Rien à voir avec la publicité.
Ah oui, d'accord.
Rien à voir. Il faut s'imaginer une sorte de gel, un peu comme de la pâte à fixe.
D'accord.
On en met 2 points, on appuie bien fort et quand c'est sec, eh bien c'est capable de vous coller une enclume au plafond.
Vraiment ?
Vraiment, vraiment. Ils l'ont testé, ça a 150 kilos, ça tient au plafond. Et l'avantage, c'est qu'on peut en plus le décoller. Il suffit d'humidifier les 2 points où on a mis de la colle, d'ajouter un petit peu d'eau et hop, ça se détache.
Ouais, si on colle quelque chose, par exemple, dans son jardin et qu'il pleut, on est foutu. Quoi. On ne pourra pas utiliser sur
de la
vaisselle,
une chaussure, un verre. Mais ça, il travaille sur d'autres versions de cette colle justement qui pourront se décoller. Bah, celle-là, c'est avec de l'électricité ou avec un produit spécifique.
Mais qu'est-ce qui les a inspirés à la base ?
Et ce qui les a inspirés, ce sont la bave d'escargot. Vous avez peut-être remarqué que quand ils dorment sur un caillou, on a du mal à les enlever parce qu'ils sont comme s'ils étaient vissés sur la pierre. Quand l'escargot va se réveiller, et le processus s'inverse et il se décolle, il peut comme ça reprendre sa route. Et bien, les chercheurs ont copié ce processus, on appelle ça le biomimétisme, c'est un truc que j'adore. C'est s'inspirer de la nature pour régler des problèmes, et là ils s'en sont servis pour faire cette fameuse colle qui risque plus de nous coller les doigts, qui nous donne le droit à l'erreur quand on fait, quand on essaye d'accrocher quelque chose au mur.
Un peu d'eau,
et bien,
hop,
un peu d'eau, on recommence.
C'est passionnant, c'est brillant, et hop, merci Anissé Mbida.
C'était l'innovation du jour avec EDF, se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr. Dans un instant, on va retrouver Céline Kellmann pour son journal. Mais tout de suite, la météo avec Laurent Cavrol.
Vous savez comment on passe du « hop » au « hop, hop, hop
». Oui, c'est avec Lolo.
Voilà. « Hop, hop, hop ». Eh bien, « hop, hop, hop », voilà, ce sont les orages. Alors qu'ils éclatent de manière très, très disséminée sur la France.
Il n'y a pas de logique, en fait.
Pardon ?
Il n'y a pas de logique concentrée.
Non, il n'y a pas de logique.
En fait,
ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas en ligne, ils ne sont pas en grain. Ils sont vraiment très éparpillés. Alors, c'est un peu comme si vous... Je cherche une comparaison pour nos amis, mais c'est un peu comme si vous preniez une poignée de riz et vous l'achetez sur une carte de France et puis regardez où sont tombés les grains de riz. Okay. Et bien, c'est un peu comme ça. Alors, les régions où ils seront présents, Bretagne, Normandie, Picardie Nord, Champagne-Ardenne, Pays de la Loire, région parisienne, Bourgogne et Centre. Autant de contrées où là, nous aurons forcément les orages. Sur Paris, en ce moment, ils sont en train de les éviter. J'en vois arriver sur la Beauce et puis hop, ils prennent à droite et un peu sur les Yvelines. Mais enfin, ils ne sont pas encore sur la capitale, il y en aura. Ce sont des averses essentiellement, des averses orageuses qui ne durent pas. Ça, c'est le bon côté.
Chaud, voilà.
Sur l'Auvergne, la vallée du Rhône et la Lorraine, ce sera cet après-midi. Là, ce sera peut-être un peu plus violent parce qu'il fera plus chaud. Sur l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes du Nord, ce soir. Et puis le Poitou-Charentes, le Limousin, le Sud-Ouest et le Méditerranée, le bassin méditerranéen. Peu d'averses, mais enfin, dans l'impression sera bien agréable quand même. Alors, ce type de temps avec de la chaleur, relative chaleur, avec des orages, ce type de temps pourrait durer encore longtemps. Enfin, longtemps, n'exagérons rien. Ça va se calmer pour la fin de semaine. Et ensuite, nous irons vers un temps la semaine prochaine qui ressemblera un petit peu à celui-là. Oui. Et peut-être même avec des chaleurs beaucoup plus intenses.
C'est dingue. Vous nous direz. On suivra. À tout à l'heure. Laurent Cabral.
Nicolas.
7h40, Jean-Michel Apathy, Marine Le Pen tend à nouveau la main aux électeurs et aux élus républicains. Et vous allez le voir, ça ne fonctionne pas. 7h43, Axel de Tarlé, la France championne du monde de l'enseignement, de la finance. Toutes les meilleures écoles sont chez nous. 7h45, taxer les plaisanciers pour financer les sauveteurs en mer. C'est ce que propose le député communiste de Seine-Maritime, Sébastien Jumel. Il sera mon invité tout à l'heure à 7h45. Excellent réveil à tous sur Europe 1.
Nous sommes le mercredi 19 juin, il est 7h30.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour Céline Kallmann, c'est un plaisir.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Il va tenter la même recette pour le même résultat. Donald Trump repart en campagne et vise une nouvelle victoire en 2020. Hier soir à Orlando, en Floride, 20 000 supporters sont venus écouter le chef de la Maison-Blanche. À la traîne dans les sondages, Donald Trump a quand même ressorti ses thèmes favoris, ceux qui lui avaient donc permis de gagner en 2016. Le reportage du correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Xavier Yvon.
Avec Donald Trump, le spectacle est toujours garanti. Devant une foule en transe, le président improvise un vote par acclamation.
Are you ready?
Quel slogan choisir pour sa réélection? Faut-il garder celui de 2016?
Make America great again.
Rendre sa grandeur à l'Amérique ou bien passer à
Keep America great.
Conserver la grandeur de l'Amérique. Finalement, ce sera un peu des deux. Mais pour le reste, les 20 000 fans à casquette rouge ont eu droit à un best-of Trump. Toutes les formules qui ont marché en 2016.
Stop illegal immigration.
Un long couplet évidemment sur l'immigration, les médias, fake news et même les attaques répétées contre Hillary Clinton, qui n'est pourtant plus l'adversaire. Seule mise à jour dans le discours de Donald Trump, son bilan.
We accomplished more than any other.
Aucun président n'a fait mieux que moi en 2 ans et demi, se vante-t-il.
Our economy is the envy.
Le monde entier nous envie notre économie. Et tout ça sera perdu avec les démocrates, ces gens animés par la haine qui ont voulu effacer votre vote avec l'enquête russe, dit Donald Trump, qui fait tout pour que sa base se sente à nouveau assiégé et donc se mobilise. Il faut un tremblement de terre dans les urnes, le même en fait qu'en 2016. C'est son seul espoir pour être réélu, lui, le président le plus impopulaire de l'histoire. New York, Xavier Yvon, Europe.
Aux États-Unis, où 16 tonnes de cocaïne ont été saisies sur un bateau à Philadelphie, c'est l'une des plus importantes saisies de stupéfiants de l'histoire du pays. Valeur marchande, plus $1 milliard. Des membres de l'équipage ont été arrêtés.
Dans l'actualité également, Michel Platini, qui est ressorti libre de sa garde à vue.
Oui, l'ancien patron de l'UEFA est apparu devant les journalistes un peu avant 1h du matin. Ça a été long, mais vu le nombre de questions, ça ne pouvait être que long, a-t-il déclaré. Michel Platini a été entendu pendant 15 heures dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, entendu sur les conditions dans lesquelles a été attribuée la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le chauffard de Lorient, arrêté hier dans un hôtel à quelques kilomètres seulement du lieu du drame, a été écroué hier soir. Mis en examen notamment pour homicide involontaire, le jeune homme de 20 ans risque jusqu'à 10 ans de prison. Selon le journal Ouest France, il avait écrit une lettre aux médias pour dire qu'il n'était pas un meurtrier. Une lettre qu'il n'a jamais envoyée durant ses 9 jours de cavale.
Cette information, Europe 1 à présent, sur celui que l'on a surnommé le tueur de la gare de Perpignan.
Jacques Ranson avait été condamné pour avoir violé, tué et mutilé 2 jeunes femmes à la fin des années 90. Il a été extrait de prison hier matin et placé en garde à vue à la gendarmerie de Béziers pour être interrogé sur un autre homicide, un meurtre vieux de 30 ans. Chloé Triomphe.
C'est une affaire qui remonte à 1986 près d'Amiens. Isabelle Ménage, une informaticienne de 20 ans, est retrouvée morte sur un chemin de terre. Et malgré des traces de lutte et la présence d'un gourdin ensanglanté, l'enquête n'a jamais permis d'identifier l'auteur. La justice finit par classer le dossier. Mais l'an dernier, les avocats de la famille découvrent avec stupeur qu'à 800 km de là, à Perpignan, se tient le procès d'un homme qui a tué deux femmes dans des conditions étrangement similaire. Il s'appelle Jacques Ranson et il a infligé le même type de mutilation à ses victimes. Le procureur d'Amiens décide de rouvrir l'enquête, d'autant plus que la présence de Jacques Ranson dans la région est établie notamment par une condamnation. Voilà pourquoi le tueur de la gare de Perpignan, qui purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité, a été extrait de prison pour être entendu dans ce cold case qui pourrait enfin trouver son épilogue 33 ans après les faits.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Une proposition de loi va être formellement déposée demain et c'est certain, elle ne va pas faire l'unanimité. Plusieurs députés issus de la République En Marche, du Parti Socialiste ou encore de la France Insoumise prônent une légalisation contrôlée du cannabis. Au cœur du texte, une société nationale qui serait chargée de produire et de vendre le stupéfiant. Plus de 70 millions de réfugiés et de déplacés fin 2018, chiffre dévoilé ce matin par l'ONU. C'est un nouveau record, dit le rapport annuel du Haut Commissariat aux réfugiés. À Londres, le député conservateur Boris Johnson a conforté son avance dans la course à la succession de la première ministre britannique Theresa May. Il a terminé largement en tête du deuxième tour du vote, réaffirmant que Londres devait sortir de l'Union européenne.
Europe 1, il est 7h35.
Elles sont déjà au Havre et ce pour préparer leur match de dimanche. On parle de nos filles, les joueuses de l'équipe de France, 8e de finale du mondial.
Oui, encore un peu de suspense pour connaître l'adversaire de nos bleus. Elles seront fixées demain soir. Hier, les femmes de Corinne Diacre ont offert un dernier entraînement à leurs supporters conquis et plus que jamais enthousiastes. Cyril de la Morinerie.
De loin, on dirait un entraînement de l'équipe de France masculine tellement l'engouement est important. Un millier de supporters en délire, habillés en bleu. Mais il s'agit bien des joueuses de Corinne Diacre, aussi appliquées balle au pied que populaires en tribune. Brigitte se régale.
C'est fantastique, c'est génial même de les voir en vrai comme ça, alors qu'on les suit à la télé, qu'on va les voir au stade Océane, c'est magique.
Il y a autant d'engouement pour les garçons, j'ai l'impression.
Oh, même plus, moi je dirais que les filles jouent mieux que les garçons. Après, ça reste mon avis personnel, oui. Mais je pense que l'équipe de France peut remporter la Coupe du Monde.
Sur le bord du terrain, massé derrière les grilles, il y a aussi ces deux supportrices qui n'ont Dieu que pour Eugénie Le Sommer.
C'est le plaisir de la regarder jouer. Moi, je l'ai vu match d'ouverture au Parc des Princes et c'est toujours la même chose. Elle a quand même débloqué pas mal de situations.
Vous assumez le fait que vous êtes une groupie?
Ah oui, totalement. C'est la best, moi je l'adore.
Allez, Eugénie!
Une heure plus tard et après un entraînement léger, les Françaises rentrent au vestiaire devant des supporters conquis et certains qu'elles iront très loin dans cette Coupe du Monde. Le Havre, Cyril de la Morinerie, Europe 1.
Mais bien sûr qu'elles iront très loin, nos bleus. Et on y revient avec Jérôme Lacroix dans le journal du Mondial à 8h35.
Merci ma chère Céline Kallmann. À demain.
Et continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Jean-Michel Apathy dans quelques minutes. Bonjour, la politique, Nikos. Bonjour.
Louis Alliot, le dirigeant du Front National, du Rassemblement National, j'ai du mal à m'y mettre, sera devant Audrey Caspomara tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'aucune personnalité significative ne veut rejoindre le Rassemblement National? Je vais vous expliquer ça. La principale réponse, c'est quand même que le grand obstacle du Rassemblement National, c'est Marine Le Pen.
Et puis l'économie avec Axel de Tarlé.
Et un classement ahurissant du Financial Times qui affirme que les meilleures écoles du monde pour apprendre la finance sont toutes françaises. Les 5 premières, je vais vous donner la liste, sont toutes françaises.
Cocorico, bonne chose ou pas?
Dans la finance.
Apathy Tarlé, dans un instant sur Europe 1.
Il est 7h37. Il est 7h38, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Louis Alliot, le dirigeant du Rassemblement National et compagnon de Marine Le Pen, sera tout à l'heure à 8h15 face à Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique. Dimanche dernier, Marine Le Pen a lancé un appel vibrant, selon ses termes, aux électeurs et aux militants du Parti Les Républicains. Est-ce que cet appel a été entendu, Jean-Michel Apathy?
Personne n'a répondu à Marine Le Pen.
Officiellement ou officieusement?
Officieusement, j'en sais rien, mais officiellement, en tout cas, rien. Personne. Elle a pris un vent, Marine Le Pen.
Ah, vous faites dans le bruitage maintenant. Tiens,
ça m'amusait. Je me disais, tiens, on va entendre le vent. Pourquoi est-ce que personne ne répond? Bon, d'abord, parce que c'est de la grosse ficelle. Marine Le Pen, elle lance un appel vibrant ou pas. Je ne sais pas pourquoi elle a dit vibrant à La Rochelle. Elle a rajouté cet adjectif, c'était vibrant. Bon, mais enfin, elle lance un appel tous les 15 jours, donc évidemment, ça ne peut pas marcher. Le câble de Marine se voit un petit peu. Mais il y a deux autres raisons plus importantes qui doivent être explorées ce matin pour expliquer quand même cette curiosité. Le Rassemblement national est dominant à droite. Voilà, depuis plusieurs années, qualifié au second tour de la présidentielle. Et il n'y a pas une personnalité significative des Républicains, des cadres, même locaux, des militants, qui rejoignent le Rassemblement national. Alors, pourquoi ? Il y a deux raisons essentielles. La première, c'est que Marine Le Pen fait peur, ou continue à faire peur. Quand elle parle d'immigration, c'est un sujet important, l'immigration. Un sujet qui est devant nous, un sujet grave, un sujet qui ne se résoudra pas sur un claquement de doigts. Marine Le Pen le fait avec des gros sabots. À la tribune, le roujoujou, l'excitation dans la tête, elle parle de déferlante, vague qui nous submerge, d'invasion, de submersion migratoire.
C'est pas nouveau, elle a toujours fait ça.
Ça fait peur, elle a toujours fait ça. Et quand elle s'exprime comme ça, elle n'est pas une femme d'État. Marine Le Pen est née politiquement dans la marginalité et quand on la voit parler comme ça d'un problème aussi important, on comprend qu'elle se complaît dans la marginalité. Vous dites qu'elle a toujours fait ça ? C'est exactement le problème. Elle n'a pas fait de révolution culturelle ou intellectuelle qui la recentrerait. Parce qu'en politique, on attire quand on est central, pas quand on est marginal. Marine Le Pen semble à la veille de comprendre cette vérité simple. La deuxième raison, c'est l'économie. Le discours économique du Front National, c'est un poème. Il y a des accents gauchistes, Marine Le Pen dénonce l'oligarchie. Comment vous allez attirer des électeurs de droite si vous dénoncez l'oligarchie ? Le Rassemblement National est anti-libéral, donc ça pour les électeurs de droite, merci ces rideaux. Le Front National est hostile, mais une hostilité brute à la mondialisation. Un grand pays comme la France, qui a de multiples savoirs, ne peut pas s'exclure de la marge du monde. Ça non plus, ça n'est pas attractif. Et puis je vous fiche mon billet, demandez à qui vous voulez dans la rue. Le Front National, il est pour ou contre l'euro aujourd'hui ? On a perdu les pédales. Autrement dit, si on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, on n'attrape pas non plus des électeurs de droite avec un discours économique qui est de briques et de broc. Marine Le Pen a beaucoup de travail devant elle si elle ne veut pas encore entendre souffler le vent. Ah, que c'est beau.
Merci Jean-Michel Apathy. Axel de Tarlé, c'est une énorme surprise. Le vent souffle pour les meilleures écoles de finance car elles sont françaises.
Voilà. Classement du Financial Times. Ce n'est pas un classement qui sort d'une...
De chez nous.
Voilà, de chez nous. Donc le Financial Times, c'est la bible du monde des affaires à Londres, qui publie son classement annuel des meilleures formations du monde en finance. Alors on aurait pu s'attendre, enfin je m'attendais à trouver les grandes universités américaines, Harvard, Stanford, Cambridge. Oxford, Cambridge, etc. Ben, je vous ai imprimé ce classement, voyez, il y a les 65 meilleurs masters
bon avec vos papiers,
en finance du monde.
Europe1.fr, Axel de Tarlé, les démonstrations.
Alors, vous pouvez lire, numéro 1, HEC Paris, numéro 2, ESCP Paris, numéro 3, EDEC Lille, numéro 4, Schema, c'est à Nice, numéro 5, ESSEC Cergy Pontoise. Et ensuite, effectivement, on trouve les autres, là, les universités américaines, Boston, Londres, etc. La France fait carton plein. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 pour les meilleures formations au métier de la finance du monde. Alors quand on lit ça, ah oui, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette fameuse petite phrase, Jean-Michel, de François Hollande. Non. C'était au Bourget le 22 janvier 2012. Pour le plaisir, on écoute.
Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance.
Alors écoutez, quelle incroyable ironie, parce que la finance, n'en déplaise à François Hollande, elle est made in France. La finance, elle s'enseigne en France et pas ailleurs. Et d'ailleurs, le Financial Times n'en revient pas, il écrit un long article en expliquant « La voilà, la véritable exception culturelle des Français. C'est pas le cinéma, c'est la finance. »
Alors au-delà de notre autosatisfaction, comment expliquer cette excellence française ? Pourquoi nos écoles sont-elles considérées, notamment par le monde anglo-saxon, qui est très, très spécial et très exigeant, comme les meilleures écoles du monde ?
Alors il y a deux raisons, et la première raison ne manque pas de sel, c'est le prix. Si le Financial Times conseille aux élèves du monde entier de venir en France, c'est d'abord parce que chez nous, les cursus sont 2 à 3 fois moins chers qu'en Angleterre ou aux États-Unis. Et le deuxième atout très important qu'on trouve en France et qu'on ne trouvera pas ailleurs, le Financial Times l'écrit, vous avez en France des élèves qui sortent des classes préparatoires avec un niveau exceptionnel en mathématiques. Or, les maths, c'est très important en finance. On le sait en France et on en fait le reproche souvent. Toute la scolarité
se fait autour des mathématiques. Et c'est même poussé à l'extrême, ces mathématiques, dans les grandes écoles. Eh bien, à la sortie, ça vous fait, pour ceux qui en sortent, des ingénieurs et des financiers hors pair qu'on s'arrache dans le monde entier. Car effectivement, Paris n'étant pas une grande place financière comme Londres ou New York, ces financiers, ensuite, ils partent à l'étranger. Vous voyez, c'est comme pour le foot. La France est un excellent sorte de formation qui fabrique des élites. Des élites qui, malheureusement, ensuite s'en vont. C'est un peu triste.
Axel de Tarlet pour le Zoom Echo dans la matinée.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Justement, pour financer le sauvetage en mer, faut-il taxer les plaisanciers ? Oui, nous dit le député communiste Sébastien Jumel. Après le drame qui a endeuillé la SNSM, le 7 juin dernier au Sable de l'Homme, il présente aujourd'hui une proposition de loi à l'Assemblée. De quoi s'agit-il ? Il nous expliquera tout ça à 7h45. Il sera mon invité. À tout de suite.
Belle matinale à tous. Il est 7h45. Il est 7h46, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
L'ancien patron de l'UEFA, Michel Platini, est ressorti libre de sa garde à vue cette nuit après plusieurs heures d'audition. Il a été entendu dans l'enquête sur les conditions d'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Son avocat a dénoncé, je cite, « beaucoup de bruit pour rien ». Fin de citation. Le chauffard soupçonné d'avoir tué un enfant et d'en avoir blessé un autre à Lorient, interpellé dans le Morbihan hier, il a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires aggravées. Il a passé sa première nuit en prison. 4 ans de plus, Donald Trump a lancé la campagne pour sa réélection en 2020 depuis Orlando en Floride. Le président des États-Unis a donné le coup d'envoi de sa campagne pour tenter de décrocher un second mandat après sa victoire surprise de 2016. Le mondial féminin de foot, qualification de brésilienne hier pour les 8e de finale après une victoire 1-0 sur l'Italie. Le Brésil pourrait être le prochain adversaire des Bleus en 8e de finale dimanche soir au Havre. Enfin, la tendance météo, des averses sur la moitié nord et des orages dans la soirée. Température de 17 à 30 degrés dans l'ensemble.
Météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 8h.
Europe 1.
Alors que la SNSM a été récemment endeuillée par le drame des Sables d'Olonne, la question de son financement et de ses moyens pour sauver les marins en détresse refait surface. Nikos, vous recevez ce matin Sébastien Jumel. Il est député communiste de Seine-Maritime et il présente aujourd'hui à l'Assemblée une proposition de loi pour taxer les plaisanciers.
Bonjour Sébastien Jumel.
Bonjour.
Sur votre compte Twitter, vous relayez la phrase d'un sauveteur après le drame des Sables d'Olonne, dans lequel 3 marins bénévoles sont morts en opération. Et vous écrivez « On est obligé de vendre des casquettes pour payer nos vedettes ».
Oui.
C'est ce qui vous fait réagir ?
Baudelaire nous dit « Homme libre, toujours tu chériras la mer », mais la mer est un espace de liberté dangereux. Et qu'on soit contraint de vendre des casquettes, des écuissons, des t-shirts pour financer la sécurité en mer, ça me semble pas pertinent, pas juste.
Le budget annuel de fonctionnement de la SNSM, c'est aujourd'hui 32 millions d'euros. Ça suffit ?
Évidemment que non. Il y a 2 enjeux pour la SNSM. Le renouvellement de la flottille, c'est-à-dire avoir des bateaux performants pour affronter la mer. Et puis, la formation des bénévoles, ça coûte et ça nécessite un financement pérenne.
Combien ? Il faudrait combien ?
Moi, ma proposition, elle permettrait de rapporter 5 millions d'euros environ à la louche, d'une manière consolidée. Ça s'additionne au mécénat, ça s'additionne aux dons, ça s'additionne aux 30% que l'État et les collectivités locales apportent, mais ça serait une bouffée d'oxygène pour ces bénévoles qui risquent leur vie pour en sauver d'autres.
Parce que 70% proviennent donc de dons privés, et pour augmenter ce budget de fonctionnement, il y a 2 pistes possibles, vous dites, hein, taxer les plaisanciers ou réorienter des taxes qui existent déjà. Vous, vous êtes plutôt pour taxer les plaisanciers ?
Écoutez, on a rendu un hommage de la nation aux 3 marins des Sables d'Olonne morts en mer, et c'était légitime. Mais moi, je me dis qu'au-delà des déclarations d'amour, il faut des preuves d'amour. D'accord. J'ai choisi la piste la plus rapide, la plus simple. Mais d'autres sont possibles. On pourrait taxer les produits des jeux sur les bateaux. On pourrait mettre à contribution les parcs éoliens offshore pour financer la SNSM. Je mets ça sur la table parce qu'il y a eu un rapport auprès du Premier ministre. C'est expertisé, c'est facile à mettre en œuvre. Et je pense que ça sera partagé par, y compris les plaisanciers.
Ça serait quoi, une taxe progressive selon la taille du bateau ?
Ouais, tout à fait. Vous avez un bateau de 7 mètres, vous contribuez... je généralise l'assurance.
D'accord.
Quand vous allez au ski, vous êtes obligé de prendre une assurance. Et quand vous payez votre forfait de ski, vous contribuez à payer les secours. Eh bien, on généralise les assurances pour les bateaux de plaisance. Et puis, un bateau de 7 mètres, 5 euros... Et quand on a un bateau très gros, 30 euros par an, c'est pas la mer à boire.
D'accord, mais les personnes sauvées en mer ne sont pas nécessairement que des plaisanciers. Il y a des amateurs de sport nautique. On demande des sous, on taxe celui qui vient avec sa planche faire du surf.
C'est juste, On pourrait mettre à contribution les jet skis, qui sont d'ailleurs quelquefois utilisés par des gens qui n'ont aucune notion de la mer.
Oui, il ne faut pas de permis, en fait, pour faire du jet ski.
Ni pour un voilier, si... Ouais.
C'est assez paradoxal.
C'est paradoxal parce qu'il vous faut, pour une mobylette ou pour la plus petite des motos, un permis. Et pour un voilier de 40 mètres, pas besoin de permis. Or, on a des gens, 70% des personnes sauvées par la SNSM sont des plaisanciers. Il y a donc un enjeu de prévention, de sensibilisation, mais aussi de mise à contribution.
Sébastien Jumel, c'est tabou de dire qu'on pourrait faire payer ceux qu'on sauve ?
Moi, je ne suis pas favorable à ça. En France, on sauve d'abord. Sinon, c'est de la non-assistance à personne en danger.
C'est interdit, en fait. C'est interdit.
Oui, c'est interdit. Et puis, ce n'est pas éthique ni déontologique. Si vous voulez sortir votre carte bleue pour être sauvé, ce n'est pas vraiment moral.
Ça
par
marche
contre,
pas comme ça,
on met à contribution une solidarité qu'on grave dans le marbre de la loi.
Il y a des députés qui disent attention au ras-le-bol fiscal, encore des taxes.
Ouais, j'ai des propositions à faire pour réduire d'autres taxes. On pourrait baisser la TVA sur les produits de première nécessité. On pourrait mettre à contribution les plus grandes fortunes pour financer des actions de solidarité. 5 euros, quand on fait de la plaisance, c'est voilà, le prix du pique-nique qu'on organise sur le bateau à chaque sortie.
Les assurances obligatoires pour les plaisanciers, elles ne peuvent pas servir à financer le sauvetage d'une certaine façon ?
Moi, je n'exclus pas que le gouvernement réfléchisse à mettre à contribution les assurances. D'ailleurs, ma proposition de loi, elle n'est pas à prendre ou à laisser. Elle vise à interpeller sur le fait qu'on a un système qui fonctionne, basé sur le bénévolat, 200 stations, 9000 bénévoles,
d'accord,
et qu'il n'y a pas de pérennisation du financement public. Donc, là, le gouvernement peut l'amender, les députés peuvent l'enrichir, mais elle a au moins le mérite de dire qu'il faut financer durablement la SNSM.
D'accord, mais si on taxe, est-ce que ça peut faire baisser aussi les dons des particuliers ?
Je ne crois pas. Vous savez, moi, j'ai été maire d'une ville de bord de mer, Dieppe, et ma circonscription borde le littoral jusqu'au Tréport. Les habitants sont très attachés à la solidarité des hommes de la SNSM, des hommes et des femmes de la SNSM, et le mécénat devra continuer à s'additionner en solidarité à la contribution plaisance que je propose.
Tout à l'heure, vous disiez, pour un grand bateau, vous pourriez les taxer à 30 euros. Est-ce que ce n'est pas un peu dérisoire quand un bateau vaut plusieurs dizaines de millions d'euros de demander 30 euros ?
Ah non, mais si Nikos voulait m'aider à faire payer les riches un peu plus, je suis preneur.
Ouais.
C'est une première étape.
Ouais.
Mais on pourrait effectivement envisager une taxe sur les yachts, ceux qui bordent les ports de Saint-Tropez et financer d'une manière encore plus utile la SNSM. On pourrait même rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune et considérer qu'elle a vocation à financer des actions altruistes comme celle de ceux qui risquent leur vie pour en sauver d'autres.
Risquer sa vie pour sauver la vie d'un autre, il y a aussi quelque chose de tragique dans cette démarche ? Quelque chose d'un peu fataliste vis-à-vis de la mer ?
En même temps, c'est beau, c'est l'humanité, ça force le respect, c'est aussi ça la force de la République. Et donc moi j'ai un respect immense pour ces hommes et ces femmes. Je pense que l'hommage de la nation rassemblée était légitime après ce drame des Sables d'Olonne. Mais passer des déclarations d'amour aux preuves d'amour, c'est encore mieux.
La journée va être longue pour vous aujourd'hui à l'Assemblée nationale ?
Elle sera longue. J'ai 58 collègues de tous les bancs qui ont soutenu cette proposition. Je veux la faire prospérer jusqu'à sa mise en œuvre concrète. Et puis il y a d'autres sujets à l'ordre du jour à l'Assemblée aujourd'hui.
Merci Sébastien Jumel, député du Parti communiste de Seine-Maritime, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1.
Et si vous souhaitez réagir, faites-le sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, Michel Platini sorti de sa garde à vue pendant la nuit après avoir été entendu dans l'enquête sur les soupçons de corruption avec le Qatar. Il s'est confié à notre micro, Europe 1. Vous l'entendrez dès le début du journal de 8h avec David Doucan. Et puis dans une minute, la bonne idée d'une petite île irlandaise pour faire revenir les habitants. Je ne sais pas si c'est des taxes, mais je peux vous dire que Jean-Philippe Ballas, c'est une belle histoire. Hein, tout de suite.
Excellente matinée à tous et bon réveil. Il est 7h54. Il est 7h56, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
On va partir en Irlande ce matin, une île qui ne veut pas mourir. Jean-Philippe Ballas, la petite histoire.
Ouais, est-ce que vous les voyez au loin, ces falaises qui découpent l'Atlantique et tout vert, ces prairies à perte de vue ? Bon, difficile dans le genre carte postale de faire plus irlandais que ce petit bout de terre de 22 km². Manquerait plus qu'un air de cornemuse. Bah, tiens, la voilà justement, la cornemuse. Bienvenue à Arranmore, ces chalutiers, ces petites maisons blanches.
mais plus grand monde à mettre dedans. C'est tout le problème. Il reste 469 habitants à Oranmore, dont près de la moitié a plus de 65 ans. Une naissance, une seule au cours des trois dernières années. Plus de cours d'école, plus de cris d'enfants. Tous les jeunes ou presque ont préféré prendre le ferry. Alors qu'est-ce qu'on fait les amis? Mais on se gratte la tête et on se connecte. C'est ainsi qu'Oranmore a décidé d'installer du très haut débit à fond partout sur l'île. Pourquoi? Pour attirer de nouveaux habitants, pardi, ceux qui bossent à la maison, les adeptes du télétravail, oui, ceux qui n'ont pas forcément besoin d'être en ville du moment qu'ils ont internet et que ça dépote. Avec en prime l'esprit irlandais. Parce qu'ici, d'accord, vous croiserez moins de monde que dans un train de banlieue aux heures de pointe, mais vous aurez toujours de bons musiciens, de belles plages et du bon whisky pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans une lettre envoyée par les habitants d'Oranmore à tous les candidats potentiels aux États-Unis et en Australie notamment, oui, là où il y a de la descendance irlandaise qui serait tentée par un retour aux sources 2.0. Alors, est-ce que ça marche? Eh bien, la réponse est oui, à très haut débit, puisqu'en quelques jours, des centaines de familles ont déjà répondu à l'annonce. Alors, vous savez quoi? On pense forcément à nos petits villages isolés. C'est ce qu'on appelle un bon coup de pub ou de pub. Là, c'est vous qui voyez.
C'est malin. C'était joli la cornemuse sur Amazing Grace tout à l'heure. Magnifique petite histoire. Merci. Ah oui, voilà.
Elle revient.
J'adore. Quelque chose d'assez émouvant et de profond à chaque fois. C'est juste ce qu'il faut pour rappeler la météo.
Mmh. Oui, arrive. Je vais vous dire que les orages vont éclater.
Continuez. C'était bien avec la cornemuse, Laurent
Cabrol. Les orages vont éclater.
Merci Jean-Philippe Ballas.
Pour ponctuer en quelque sorte cette douceur de cornemuse, mais ils vont éclater de manière très anarchique, un petit peu ici, un petit peu là, sur pratiquement toute la moitié nord de la France. D'ailleurs, en ce moment, il y a de la pluie, mais ce sont des pluies très éparses, ce sont des pluies qui sont parfois violentes, mais disséminées dans toute la moitié nord, sur toute la moitié nord. Et puis, un peu à l'écart, l'Alsace, la Franche-Comté, à l'écart aussi, le Poitou-Charentes, le Limousin, le Sud-Ouest et le Méditerranée, le bassin méditerranéen. Quand je dis à l'écart, c'est maintenant ou tout à l'heure, mais de toute manière, dans ces régions, vous aurez une impression assez agréable. En ce qui concerne la région parisienne, on n'échappera pas, je pense, à quelques averses dans le courant de cette journée de mercredi, comme sur la Normandie, la Picardie, les Pays de la Loire, la Champagne, les Ardennes et le centre. Que dire des températures? Je voudrais vous les donner, chers amis. 20 à Caen, je vous les prête, vous ne m'y rendez pas. 22 à Rennes, 23 à Biarritz, 24 à Lille, 25 à Bourges et Bordeaux, Paris, Nevers et Nice, 26, 28 à Marseille et Clermont, Dijon, Toulouse, Nancy, 29, 30 à Colmar et Lyon et 31 degrés à Carcassonne.
Merci cher ami, merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Et merci à vous pour votre fidélité en ce mercredi matin. Il est 8h, bienvenue. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal est présenté par vous, mon cher David Doucan. Bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Michel Platini aura passé 15 heures en garde à vue. Les policiers enquêtent sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Récits et explications dès le début de ce journal. La réforme de l'assurance chômage, dégressivité pour les cadres, durcissement des conditions d'accès aux droits, voilà pour les salariés. Et les entreprises alors, le système de bonus-malus anti-contrat court est-il réellement dissuasif? La réponse dans un instant. Et puis il y avait de l'ambiance cette nuit à Orlando en Floride. Le président Donald Trump a lancé la campagne pour sa réélection en 2020. Vous l'entendrez dans cette édition.
Et juste après le journal, l'analyse de Vincent Hervouet sur le coup d'envoi de la campagne de Donald Trump. Et puis à 8h15, Audrey Crespo-Marat y reçoit Louis Alliot, député Rassemblement National et candidat aux élections municipales à Perpignan.
Europe 1. Ça fait mal quoi, hein. Ça fait mal pour tout ce que je peux penser, tout ce que j'ai fait, ça fait mal. Mais bon après... Ils ont fait leur boulot et puis on a essayé de répondre à toutes les questions. Voilà.
Michel Platini, manifestement affecté, il vient de passer 15 heures en garde à vue au moment de cette déclaration, en pleine nuit, à Nanterre, devant l'Office anticorruption. Il est ressorti libre, mais les enquêteurs se penchent sur l'attribution de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. Les soupçons planent notamment sur un déjeuner secret à l'Élysée en 2010, en présence de Nicolas Sarkozy, quelques jours avant le vote. Le récit de la garde à vue et les explications de Pierre de Cossette.
Des dizaines de questions soigneusement préparées. Au 9e étage de la PJ, dans les bureaux de l'Office anticorruption, trois invités de marque, tous entendus séparément, quand en fin de journée, les enquêteurs les réunissent dans le même bureau. Confrontation, il y a la Claude Guéant, Sophie Dion, ex-conseillère sport du président Sarkozy, et donc Michel Platini. Que s'est-il passé durant ce déjeuner de novembre 2010 en présence du chef de l'État et du prince héritier du Qatar? Est-ce à ce moment que le vent a tourné, alors que la voix de Platini semblait promise aux États-Unis? Les intéressés assurent sûr ne rien savoir d'un possible pacte de corruption, d'un deal entre Paris et Doha, avec au centre des tractations la chaîne beIN Sport ou le PSG. Et à 1h du matin, voilà comment William Bourdon, l'avocat de Michel Platini, résume la situation.
Beaucoup de bruit pour rien. Nous ne considérons en aucune façon Michel Platini puisse être considéré comme suspect de quoi que ce soit, pas plus hier qu'aujourd'hui, que demain. C'est donc pour nous une affaire terminée.
Pour l'heure donc, le parquet financier ne poursuit pas Michel Platini, mais attention à ne pas crier victoire, rien n'empêche le PNF, tôt ou tard, de demander la reprise de sa garde à vue.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1 avec Jeanne Bergaoui.
Les critiques pleuvent depuis hier sur le gouvernement en cause, la réforme de l'assurance chômage.
Oui, les syndicats la jugent unanimement injuste. Le patronat s'émeut du système de bonus-malus anti-contrat court. Mais qui sont réellement les gagnants et les perdants? Le gouvernement met à contribution les entreprises et les chômeurs, mais pas dans les mêmes proportions. Olivier Samin.
On a beaucoup parlé ces dernières semaines du bonus-malus qui allait être mis en place pour sanctionner financièrement les entreprises qui abusent des contrats courts. Il est bien là. Et la critique du patronat est tout sauf une surprise. Mais ce qui apparaît clairement ce matin, c'est que l'essentiel de l'effort demandé par le gouvernement va peser sur les chômeurs. Qu'il s'agisse du durcissement des conditions requises pour pouvoir être indemnisé, il faudra maintenant avoir travaillé au moins 6 mois dans les 24 derniers mois. Qu'il s'agisse des règles moins favorables pour les demandeurs d'emploi qui exercent une activité réduite, ils devront attendre plus longtemps avant de pouvoir recharger des droits. Qu'il s'agisse du changement du mode de calcul des indemnités chômage. Qu'il s'agisse aussi de la dégressivité des allocations chômage pour les cadres qui, avant de perdre leur emploi, gagnaient plus de 4500 euros bruts par mois. Toutes ces mesures permettront d'économiser 3,4 milliards d'euros sur 3 ans. La seule mesure favorable aux chômeurs, c'est le renforcement de leur accompagnement grâce à l'arrêt des réductions d'effectifs à Pôle emploi et même l'embauche de 1000 nouveaux conseillers.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Une information politique en bref, Bruno Retailleau ne sera pas candidat à la présidence des Républicains, le patron des sénateurs LR l'annonce dans les colonnes du magazine Le Point. Il ne veut pas, dit-il, générer une nouvelle guerre des chefs. La voie est donc libre pour Christian Jacob.
Le procès Balkany touche à sa fin.
Oui, et c'est au tour de la défense de s'exprimer. Maître Éric Dupond-Moretti plaidera contre ce qu'il appelle une justice sur le mur de l'exemple. Tout l'enjeu pour l'avocat de Patrick Balkany sera de démontrer le caractère excessif de la réquisition du parquet la semaine dernière. Le procureur demande 7 ans de prison ferme pour blanchiment de fraude fiscale et corruption passive. Salomé Legrand.
Tout au long du réquisitoire, il a grommelé à intervalles réguliers derrière son client qui faisait de grands noms de la tête. Éric Dupond-Moretti, deuxième vedette de ce procès spectacle suivi par un public chaque jour plus serré sur les bancs, va donc investir le prétoire tout à l'heure pour son monologue final. Si Balkany a reconnu la fraude fiscale, il réfute tout blanchiment, toute corruption. « Je n'ai dépensé que de l'argent familial », martèle depuis le début le maire de Levallois, dont l'avocat va réclamer qu'il ne soit pas cloué au pilori de l'exemplarité. Une plaidoirie périlleuse pour ce ténor, certes surnommé acquittateur, mais qui, au long des 4 semaines d'audience, n'a fait que peu d'interventions sur le fond du dossier. Hier, ses confrères ont techniquement tenté de démonter l'existence d'un quelconque pacte de corruption autour des tours de Levallois, mais ils ont au passage miné la défense de Balkany sur la réelle propriété du riad marocain. Maître Dupond-Moretti qui va en outre devoir trouver une parade à l'arrogance affichée à longueur d'audience par son client.
Salomé Legrand, du service police-justice d'Europe 1. Le Monde a battu un triste record en 2018. Plus de 70 millions de personnes ont dû quitter leur foyer en raison des guerres ou des persécutions. 2 millions de plus qu'en 2017. C'est la conclusion du rapport annuel du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Peut-être avez-vous vu ces images impressionnantes. La chancelière allemande prise de tremblements pendant de longues minutes. Angela Merkel assistait à une cérémonie officielle à Berlin. Il faisait 30 degrés. Naturellement, cette scène a généré beaucoup d'inquiétudes. La dirigeante a expliqué par la suite qu'elle avait souffert de déshydratation et qu'après avoir bu de l'eau, elle allait beaucoup mieux.
Europe 1.
À suivre dans le journal de 8h, Orlando en Floride, meeting géant, Donald Trump en campagne pour 2020. Vous l'entendrez, à tout de suite.
Il est 8h07, votre matinale info, Nico Sadiagas.
La suite du journal avec David Doucan. 1 an et demi avant l'élection, Donald Trump est déjà candidat pour un deuxième mandat.
Oui, il l'a annoncé cette nuit à Orlando, en Floride, dans un stade surchauffé devant une foule enthousiaste. Écoutez, le désormais candidat à sa propre succession.
Je me présente devant vous pour lancer officiellement ma campagne pour un second mandat de président des États-Unis. On l'a déjà fait une fois, on va le refaire. Et cette fois, ça devrait être plus facile parce que nous avons déjà tellement fait de choses. Nous commençons notre campagne avec les meilleurs résultats, le meilleur programme et la seule vision positive pour le futur du pays. Un vote pour un démocrate en 2020 est un vote pour le socialisme radical et la destruction du rêve américain.
Extrait choisi par notre correspondant aux États-Unis et envoyé spécial en Floride, Xavier Yvon. Et j'ajoute que Donald Trump a violemment attaqué ses adversaires démocrates qu'il a accusés d'être, je cite, « guidé par la haine ».
Et dans un instant, l'analyse de Vincent Herouet, pour qui Trump a toutes ses chances en tant que professionnel du spectacle dans la société de la politique spectacle.
D'Orlando, en Floride, à Marseille, en Provence, je vous fais voyager. Tout un quartier de la cité phocéenne est actuellement contraint d'utiliser des groupes électrogènes pour avoir du courant. C'est l'île du Frioul, à 20 minutes de bateau, qui dépend du 7e arrondissement. Figurez-vous que les deux câbles sous-marins qui assurent l'alimentation ont rendu l'âme. Les riverains et les commerçants de cette île perdent patience. Nathalie Chevance.
Depuis plus d'un mois, le chant des gabions est concurrencé par le ronron des groupes électrogènes. Seule solution pour alimenter les 350 clients du Frioul, dont Stéphane, restaurateur, qui travaille au gré des coupures de courant.
Une histoire de fada. On va sur la Lune, on va sur l'espace et on n'arrive pas à fournir l'électricité d'un quartier de Marseille. On se marche sur la tête. Pas de courant, tout qui s'éteint, rallumer des bougies. On perd du temps, on s'énerve facilement parce qu'on n'a plus du tout la même technologie de caisse enregistreuse, d'imprimante, qu'on retravaille à l'ancienne. Oui, le Moyen-Âge.
Colère aussi de Roger Insulaire, car le principal groupe électrogène consomme sous ses fenêtres 1200 litres de gazole par jour, tout cela au beau milieu du parc des Calanques.
Il faut voir ce qui crache, hein, parce que quand même un groupe comme ça qui a plus de 1000 chevaux, point de vue pollution, ça en envoie dans l'air, ça, hein, costaud. Le bruit, c'est pas très sérieux.
Car les problèmes d'électricité durent tout de même depuis un an, situation compliquée, reconnaît Frédéric Béringuier de chez Enedis.
Aujourd'hui, dans l'urgence, nous avons mis des groupes électrogènes, c'est une nécessité. Alors oui, ça tourne gazole, c'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision d'installer un câble provisoire dès cet été.
Encore du provisoire, peste les insulaires avec ce sentiment d'abandon. Au Frioul, Nathalie Chevance, Europe 1.
Cinéma avec le retour de Jean Dujardin.
Oui, il est à l'affiche du Dain, le nouveau film de Quentin Dupieux, un univers loufoque, la critique de notre spécialiste cinéma, Mathieu Charrier.
Georges a 44 ans, il vient de tout plaquer et il a désormais une seule passion.
Vous parlez de mon blouson ?
Pourquoi on parlerait de ton blouson ?
Vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal.
Son blouson en daim, acheté cash avec ses économies. Il va devenir comme une seconde peau, prendre possession de lui en quelque sorte, et Georges va en avoir plus qu'une idée en tête, faire disparaître tous les autres blousons de la surface de la Terre, en tuant au passage leur propriétaire. Évidemment, on est dans l'humour absurde et l'univers un peu barré de Quentin Dupieux. C'est ce qui a séduit Jean Dujardin, qui joue Georges.
Il y a un espèce de gros fantasme, parfois assez réservé aux hommes, l'envie de tout plaquer, et pourquoi pas d'aller s'acheter un blouson en daim et de s'enfermer dans une chambre d'hôtel. Et ensuite, si tu veux avoir ce blouson minable et te prendre pour un caïd, t'as le droit. Si tu veux qu'il ait un super pouvoir, t'as le droit. On est dans une espèce de régression, mais pas enfantine, une régression plutôt animale.
Une régression qui en tout cas amuse et surprend le spectateur. Loin des codes habituels du cinéma, 1h17 de défouloir et de plaisir. Jean Dujardin, lui, va bientôt commencer le tournage du nouvel OSS 117 qui devrait se dérouler sous l'ère Giscard d'Estaing sur fond d'affaires des diamants de Bocassa.
Les bonnes infos de Mathieu Charrier du service culture de
Vous aimez ma veste en daim ?
Oui, j'aime beaucoup. Non, vous avez une chemise en jean qui est effectivement osée. C'est osé. Vous le saviez, vous, que le prochain OSS se déroulerait sous Giscard ? Sur fond de l'affaire, vous le saviez.
Je le savais parce que j'en avais parlé, pardonnez-moi, avec l'intéressé.
C'est votre dada, ouais.
Oh là là.
La Coupe du Monde de football, Nikos ?
Évidemment.
Je vous donne des nouvelles de nos Françaises. Les Bleus sont arrivés hier au Havre, où elles disputeront dimanche leur 8e de finale. On ne connaît pas encore leur adversaire, mais il y a toujours cette ferveur. Des centaines de fans ont assisté à leur entraînement. Et puis, sachez, par ailleurs, que les Brésiliennes se sont qualifiées en battant l'Italie 1-0. L'Italie qui ira également en 8e de finale.
Allez les Bleus, allez David Doucan, à demain, 8h sur Europe 1.
Et vos réactions continuent d'arriver sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On va en parler ce matin de la tournée d'adieu d'Elton John, qui était hier à Lille, qui sera ce soir à Bercy, Nikos. Et bien Camille sur Twitter avec le hashtag Europe 1 nous dit que sa chanson préférée d'Elton John, c'est celle-ci.
Your Song.
Exactement. C'est aussi la chanson préférée d'Hélène Zelani. Vous lui avez demandé tout à l'heure, hop, elle l'a également mis sur Twitter.
Vous dansez ?
Avec plaisir.
En tout cas, c'était pas la chanson de meeting de Donald Trump, Pierre. J'en veux pour preuve l'analyse de Vincent Hervouet. Elle arrive.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
Il est 8h12 et on retrouve, vous l'avez dit, Vincent Hervouette pour l'édito international.
On a vu les images partout sur Internet, sur les chaînes info, le coup d'envoi de la campagne de Donald Trump pour sa réélection, déjà avec un meeting absolument monstrueux. Enfin, il y a tellement de monde hier soir à Orlando, en Floride, c'est un show en fait.
Oui, oui, on se dit que c'est parti, mais en fait ça n'a jamais arrêté. Vous avez remarqué, hein, Donald Trump est en campagne permanente. La différence, c'est le compte à rebours, un compte à peu près rond. On est à 500 jours de la présidentielle. Et comme le jeu de massacre des primaires démocrates occupe les médias, bien le président devait entrer lui aussi en lice. Tout ça est assez rationnel. Sauf que Donald Trump avait promis de la folie à ses partisans, que le stade des Orlando Magic allait connaître un déchaînement de passion comme pour un concert de rock. Et la bête de scène a tout fait cette nuit pour chauffer à blanc son public. Alors Donald Trump a un programme, c'est son bilan en matière d'immigration, de sécurité, d'économie, mais sa promesse, c'est l'ivresse. C'est logique qu'il commence donc à Orlando, où siège Disneyland. Le Donald y est à sa place. Le soleil, la fête, le stade, tous ces détails, eh bien c'est l'essentiel, parce que le programme est accessoire. Le discours aussi d'ailleurs. Il n'y a plus vraiment de discours. Donald Trump fait un numéro de stand-up. Il n'interprète pas un texte. Il fait des grimaces, des plaisanteries, des coq-à-l'âne, des mous. Il dit parfois n'importe quoi. Il improvise. C'est du grand art.
En fait, la politique comme un spectacle, hein, avec un candidat qui est un professionnel. Là, vous l'avez dit, du stand-up et du spectacle.
Oui, et la tendance est générale, surtout avec les humoristes. Volodymyr Zelensky, le nouveau président ukrainien, est un acteur qui jouait un président élu par accident. Il n'a pas fait de meeting, il a fait une tournée de représentation et l'illusion a fonctionné, les gens ont voté pour lui. Le Premier ministre slovène est un humoriste de 40 ans, connu pour ses imitations de politiciens. C'est Nicolas Canteloup, soir et matin, gouvernant à Matignon.
Je le verrai bien.
Le Guatemala a élu le comique Jimmy Morales. Le nouveau maire de Reykjavik en Islande est le rigolo Jognar, BP Griot a fondé le mouvement 5 étoiles aujourd'hui au pouvoir à Rome. Même Boris Johnson doit une grande partie de sa notoriété à son humour décoiffant dans l'émission satirique de la BBC. Alors ils sont tous comme Trump, des rebelles officiels. Ils choquent le bon goût, ils transgressent, c'est exprès. C'est leur meilleur atout face aux élites qu'ils dénigrent. Et Donald Trump a fait un tabac cette nuit en faisant huer ainsi les médias. On peut donc loger à la Maison-Blanche et rester un outsider. Et il va rester à la Maison-Blanche s'il reste un outsider. Oui. Le comble, c'est que ça marche pas si mal. Le maire de Reykjavik serre les cordons de la bourse, le comique slovène fait le ménage, Donald Trump et les autres obtiennent des résultats, et en plus de faire rire les uns, et grincer les dents à tous les autres.
Mais il faudrait juste Canteloup président. Et on a résolu le problème.
Vous vous moqueriez de lui tous les matins.
Et ouais, enfin, Vincent Hervouette pour l'édito international.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Je vous verrai bien interviewer Canteloup. Quel est votre programme,
là,
Nicolas
Canteloup? Quel bonheur, écoutez, on fait ça avant la fin de la saison.
Allez, qui est votre invité ce matin, André Crespo-Mara?
Eh bien écoutez, son parti est arrivé en tête aux élections européennes, mais dans sa ville, Perpignan, où Emmanuel Macron a fait 60% en 2017, va-t-il se présenter sous l'étiquette RN? Louis Alliot, député Rassemblement National, sera mon invité.
A tout de suite.
Il est 8h18, Nico Saliagas.
Le député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales, Louis Alliot, est votre invité, Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Louis Alliot.
Bonjour.
La dette de l'UNEDIC, qui gère l'assurance chômage, atteint désormais les 35 milliards d'euros. Quel est votre plan pour réduire cette dette?
C'est de créer de l'emploi et ne pas s'attaquer aux chômeurs, parce qu'ils ne sont que les victimes d'un système économique français qui produit plus de chômage qu'il ne crée d'emplois.
Le chômage, il est au plus bas depuis 10 ans.
Oui, d'accord, mais il est tellement haut, si vous voulez, qu'il est au bas d'en haut de l'échelle, ce qui n'est pas glorieux. On n'est pas comme aux États-Unis où on est vraiment en bas de l'échelle. On est plutôt en haut, nous, ce qui prouve que la politique économique menée par ce gouvernement n'est pas la bonne, puisqu'on produit, encore une fois, des emplois, mais qui manifestement ne compensent pas la baisse.
Nous, on est à 8,7%. Vous évoquiez les États-Unis, ils sont à 3,6%, mais le SMIC horaire là-bas est à 6 euros, alors qu'il est chez nous à 10 euros. Donc vous voudriez baisser le SMIC?
Ce n'est pas des systèmes comparables, mais il faut bien reconnaître...
Mais c'est vous qui le comparez.
Non, mais il faut bien reconnaître qu'on a tapé sur la tête de M. Trump en se moquant de lui, et qu'aujourd'hui, c'est lui qui rigole et nous qui rions jaune. La vérité, c'est que notre système économique est toujours en panne et que l'on ne s'attaque pas aux causes du chômage et que l'on n'aide pas ceux qui créent de la richesse, en l'occurrence les petites entreprises, les commerçants, les artisans, les PME, PMI. C'est cela qu'il faut aider. Et malheureusement, le gouvernement ne fait rien pour ces gens-là.
Le gouvernement veut pénaliser les entreprises qui abusent de contrats courts. L'objectif étant d'offrir une certaine stabilité d'emploi. Ça ne vous paraît pas une bonne idée, ça ?
Non, parce que s'ils font des contrats courts, c'est qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir. C'est qu'il n'y a pas, j'allais dire, les carnets de commandes ne sont pas pleins. C'est un problème donc de dynamisme de l'économie. Et faire ce constat-là, c'est faire un constat d'échec et c'est pénaliser ceux qui déjà souffrent d'un système fiscal qui presse et d'un système social, j'allais dire, de plus en plus important, puisque la précarité s'installe durablement dans le pays.
Aujourd'hui, un cadre au chômage peut toucher jusqu'à 7000 euros d'indemnité. Est-ce que vous trouvez ça injuste si ce montant diminue un peu au bout de 6 mois ?
Mais c'est-à-dire, si on était dans une économie florissante avec peu de chômage, on pourrait s'attaquer à la précarité, y compris des cadres. Mais ça, c'est le haut de l'iceberg. On montre du doigt les cadres, mais c'est, j'allais dire, infime en coût par rapport au coût du déficit global. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que va-t-on faire avec les chômeurs qui ne sont pas avec des indemnités très importantes de cela ? Que va-t-on en faire ? Pour l'instant, on ne le sait pas très bien encore et on va étudier ça de près dans les jours qui arrivent.
Alors, si le gouvernement veut faire des économies sur l'assurance chômage, c'est aussi pour que les salariés qui démissionnent, les indépendants, puissent avoir droit au chômage. Ça vous paraît normal que les indépendants n'aient pas droit au chômage ?
Non, ça c'est évidemment pas normal. Mais
donc c'est une bonne chose.
Oui, mais c'est l'assurance chômage. Une assurance chômage, vous cotisez pour, au cas où vous ayez un pépin, en l'occurrence une perte d'emploi, vous ayez un revenu. Les indépendants, il va falloir créer un système particulier pour eux. Et ils payent déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'impôts et de charges et de lourdeurs administratives. Et je me demande bien ce que va faire le gouvernement pour cette profession particulièrement, cette classe sociale, on va dire, qui aujourd'hui souffre énormément parce que tout simplement l'économie est au ralenti.
Et Louis Alliot, au municipal, vous serez de nouveau candidat à Perpignan où vous avez été battu en 2014. Il y a 5 ans, vous aviez refusé de porter l'étiquette du Front National. Est-ce qu'en 2020, vous porterez l'étiquette du Rassemblement National ?
Je porterai l'étiquette du Rassemblement local.
Ah bah,
parce que je vais faire une liste. Je vais faire une liste de large ouverture avec des socio-professionnels, des personnes qui ne sont pas de ma formation politique.
Mais qui ne veulent pas de cette étiquette Rassemblement National ?
Parce qu'ils ne le sont pas. Ils vont se positionner sur ma personnalité et sur le projet municipal lui-même, en dehors des étiquettes. Parce qu'aujourd'hui, au niveau local, les étiquettes comptent beaucoup moins qu'elle ne comptait auparavant. Et je pense que cette élection municipale, principalement, va démontrer qu'il y a des projets à soutenir et peut-être des étiquettes qu'il faudra mettre de côté.
Mais comment se fait-il que l'étiquette Rassemblement National soit encore un fardeau dont vous avez besoin de vous débarrasser?
Mais je vous signale que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les autres partis ne mettent pas forcément leur étiquette non plus.
Oui, mais vous avez gagné les européennes, donc on pourrait estimer que c'était plus un fardeau.
Il ne faut pas mélanger les élections. L'élection européenne est une élection très politique et très partisane. Les élections législatives sont aussi des élections politiques et partisanes. L'élection municipale, c'est une élection d'intérêt général, d'intérêt local, de rassemblement. On n'est pas là pour imposer ses idées, on est là pour défendre un projet, un avenir. Et précisément pour Perpignan et pour la métropole de Perpignan, j'ai un projet et j'ai les hommes pour le mener.
Au second tour de la présidentielle, les électeurs de Perpignan ont voté à 60% pour Emmanuel Macron. Croyez-vous qu'ils aient envie d'élire un maire Rassemblement National ?
Oui, mais vous comparez ce qui n'est pas comparable. Monsieur Hollande, en 2012, avait fait 50 et quelques pourcents à la ville de Perpignan à la présidentielle. 2 ans après, son candidat faisait 12% au municipal. Il ne faut surtout pas comparer. Ce ne sont pas les mêmes élections, ce ne sont pas les mêmes électorats, et les électeurs ne se prononcent pas sur les mêmes, précisément, schémas politiques.
Louis Alliot, aux dernières municipales, le Front National a obtenu 10 mairies. Quel est votre objectif cette fois-ci ?
Ah bah écoutez, c'est d'ailleurs d'abord de les conserver, et surtout d'en gagner beaucoup plus.
C'est-à-dire ?
Mais en lançant cet appel, évidemment, à tous les déçus de la politique actuelle, et notamment aux gens de LR qui sont un peu aujourd'hui en déshérence, et que nous accueillerons sur nos listes au moment des municipales dans un an.
Vous êtes à deux sur la dépouille des LR, le Rassemblement National et la République en Marche.
Mais c'est pas une dépouille, c'est le Parti Socialiste et l'UMP, les LR, ont gouverné la France depuis 30 ans alternativement. On a vu les résultats, et voilà, place à ceux qui n'ont jamais encore gouverné, c'est-à-dire aujourd'hui à nous.
Louis Alliot, si vous êtes élu maire de Perpignan, vous quitterez votre siège à l'Assemblée nationale, comme Gilbert Collard, qui a quitté le sien pour siéger à Strasbourg. Est-ce que, comme lui, vous trouvez qu'on s'ennuie à l'Assemblée nationale ?
C'est pas une histoire d'ennui, c'est une histoire que l'opposition n'a pas de droit. N'a pas droit à la parole. Et quand vous n'avez pas de groupe comme nous, c'est encore pire, puisque nous, on ne nous donne même pas le soin de rédiger, par exemple, des rapports parlementaires. Moi, dans ma commission de la Défense, je siège, on peut discuter, mais on n'a pas le droit de prendre des rapports et d'étudier des problèmes spécifiquement, parce que l'Assemblée nationale ne nous en donne pas les droits. Il faut donc revoir le statut des parlementaires d'opposition. Et à ce moment-là, je pense qu'il y aura plus de sympathie entre les parlementaires et le système parlementaire de l'Assemblée nationale.
Louis Alliot, Marion Maréchal propose une union des droites. Marine Le Pen a toujours rejeté cette idée. Et vous ?
Je pense qu'elle est périmée, cette union des droites. Elle était valable il y a 10 ans. C'est un vieux projet, mais que nous sommes aujourd'hui dans des clivages totalement différents. La vérité, c'est qu'aux élections nationales, aujourd'hui, le clivage, c'est ce que l'on appelle les mondialistes contre les patriotes qui est en train de s'établir et que les élections européennes nous ont montré. Et au niveau local, ça va s'inscrire dans des logiques de projet. Et dans ces logiques de projet, il y a effectivement une partie de la droite qui peut venir faire alliance, ou nous-mêmes d'ailleurs avec un certain nombre de gens de chez eux, ce que j'appelle moi la droite courageuse. Mais manifestement, la droite courageuse, elle n'est pas à la tête des Républicains aujourd'hui.
Alors, il y a une autre alliance possible en Italie, par exemple. Matteo Salvini a conquis le pouvoir en s'alliant avec la gauche contestataire. Le Rassemblement national, à votre avis, peut-il conquérir le pouvoir avec cette gauche dite populiste ?
C'est pas tout à fait vrai. Il a conquis le pouvoir avec l'aide de M. Berlusconi, c'est-à-dire de la droite.
Hein. Donc c'est sur la droite que vous misez, c'est l'alliance quand même avec la droite.
C'est ce qu'il a fait, et ensuite il a réussi à faire une coalition de gouvernement avec les 5 étoiles. Mais malheureusement, il faut constater qu'en France, ce que l'on appelle la droite n'en est pas une, et qu'elle est aujourd'hui une béquille d'appoint de La République En Marche.
Pas de droite courageuse, selon vous ?
Exactement. Une droite qui a honte de ce qu'elle est et qui d'ailleurs a toujours été, je veux dire, au soutien de la gauche ou au soutien de la République En Marche, mais pas tous. Et c'est cela qui nous intéresse.
J'imagine. Merci Louis Alliot.
Merci.
Louis Alliot, député Rassemblement National des Pyrénées-Orientales, interviewé par Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol et l'essentiel de l'info. À 8h30, ne manquez pas la revue de presse avec David Abiker. Et à 8h35, le journal de la Coupe du Monde féminine de foot avec Jérôme Lacroix.
A tout de suite avec Nico Saliaga sur Europe 1, il est 8h27. À suivre l'essentiel de l'actualité, mais tout de suite la météo, Nikos avec Laurent Cabrol.
On est effectivement dans une tendance orageuse, il y a eu des orages cette nuit, oui. Est-ce qu'on en sait un peu plus, Laurent Cabrol ?
On essaie de glaner les informations sur les dégâts ou sur l'importance de ces orages. Il est vrai que c'est pas très facile parce qu'il est encore tôt le matin. On sait que dans l'Orne, le Calvados, il y a énormément d'orages avec quelque chose comme en Seine-Maritime, par exemple en Normandie toujours, 15 000 éclairs dans la nuit. Dans l'Orne, on parle de Flers ou à Flair, on parle de grêlons, de la taille d'une balle de golf, de Sèvres, des vents à 80-95 km/h, deux semaines de pluie en une nuit. Enfin, vous voyez que ça semble vraiment très violent. Alors, pour l'instant, bien sûr, on ne fait que relancer ce que nous disons depuis maintenant le matin, très tôt, c'est de savoir faites attention, prenez vos précautions et surtout ne sortez pas comme ça de manière intempestive. Alors, ils vont éclater ici ou là sur la Bretagne, la Normandie, la Picardie, le Nord, les Pays de la Loire, l'Île-de-France, la Bourgogne et le Centre. Ils éclatent de manière assez éparpillée, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il y en a eu aussi à Cabourg, il y en a eu à Troyes, à Saint-Dizier, des orages. Sur la vallée du Rhône et la Lorraine, un ressenti orageux et surtout, ils éclateront dans l'après-midi. En Alsace et en Franche-Comté, c'est agréable, ils éclateront en soirée. Ce qui est agréable, c'est la journée, bien sûr. Poitou-Charentes, Limousin et Sud-Ouest, ce sera un temps plutôt ensoleillé. Température ?
Oui.
Entre 20 et 31, c'est un peu moins chaud qu'hier. 20 à Caen, 22 à Rennes, 23 à Biarritz, 24 à Lille, 25 à Bordeaux, 26 à Paris, 27 à Clermont, 28 à Marseille, 29 à Dijon et 30 à Colmar et à Lyon.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
7h, 9h,
Deux heures d'info sur Europe 1.
Nous sommes le mercredi 19 juin, toute l'actualité à 8h30 avec vous Nico Aliagas.
Et pour commencer, Bruno Retailleau qui annonce ce matin qu'il ne sera pas candidat à la présidence du Parti Les Républicains. Mon devoir, dit-il, est de rester à mon poste, de porter la voix d'une opposition intelligente qui ne soit pas dans l'obstruction permanente. C'est ce qu'il déclare notamment sur Twitter. C'est donc le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau. Après 15 heures de garde à vue, il est ressorti libre. Michel Platini a été entendu jusqu'à 1h du matin dans le locaux de la direction centrale de la police judiciaire. Une audition pour examiner les conditions dans lesquelles il a été attribué la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le nombre de personnes fuyant la guerre, les persécutions ou les conflits a dépassé 70 millions en 2018. C'est un triste record dévoilé ce matin par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce qu'on appelle aussi le HCR. Donald Trump a lancé sa campagne devant 20 000 supporters. Ça s'est passé en Floride, à Orlando. Le chef de la Maison Blanche vise une nouvelle victoire en 2020.
Europe 1. Il est 8h32, Nico, c'est l'heure de retrouver David Abiker pour sa revue de presse.
Bonjour David Abiker.
Bonjour Nico, bonjour Céline, bonjour. Bonjour à tous.
À la une ce matin, la réforme de l'assurance chômage.
Et à lire les titres des journaux, jamais assurance n'a été aussi peu rassurante. Notez que l'assurance chômage, c'est d'abord un pari sur l'avenir. Pari sur l'avenir, ça c'est le titre de l'équipe et ça concerne l'équipe de France de rugby. Non, à la une de vos quotidiens, la réforme de l'assurance chômage ne rassure pas. Le plan choc du gouvernement, titre les Échos. Le grand remue-ménage pour l'opinion. Une réforme critiquée de toutes parts dans le Figaro. C'est la réforme qui fâche pour le Parisien aujourd'hui en France. Un big bang sur le dos des chômeurs, s'alarme l'humanité. Mais c'est pas tout. Comment donner des assurances sur la réforme de l'assurance chômage quand soi-même on n'est pas assuré d'avoir les mots pour le dire. Écoutez bien fourcher la langue de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui présentait hier sa réforme et s'est fendu d'un superbe lapsus.
C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Contre le chômage et pour la précarité.
Un lapsus qui ne prouve rien, qui ne prouve qu'une chose lorsqu'on présente une réforme de l'indemnisation. Voyez, moi je fourche aussi, on n'en sort pas toujours indemne.
Et ce matin, les éditorialistes jugent la réforme.
Pour Claude Veil de Nice Matin, si l'idée était de plumer la poule sans la faire crier, c'est raté. De la CGT à la CPME, en passant par le MEDEF et la CFDT, fâché en même temps le monde syndical et le patronat, c'est la preuve que le dispositif est équilibré. Même tarif dans la Voie du Nord, avec cette réforme, explique Hervé Favre, Muriel Pénicaud s'est mise à dos à la fois les organisations patronales furieuses du malus imposé sur les contrats courts et les syndicats de salariés, tous remontés contre le durcissement des règles d'indemnisation. Mais dans le Parisien, aujourd'hui, en France, Frédéric Vézard place syndicats et patronats face à leurs responsabilités. Ceux-là même qui s'indignent aujourd'hui feraient bien de se rappeler qu'ils ont été incapables de s'entendre pour éviter la déconfiture financière de l'UNEDIC qui gère l'assurance chômage et fait face aujourd'hui à une dette colossale de 36 milliards d'euros. Comment s'étonner qu'il faille un traitement de choc pour la sauver ? Alors selon l'adage, quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me console, on jettera un œil à ce qui se fait chez les Allemands.
La comparaison, on la trouve dans le journal L'Opinion.
L'Opinion qui l'affirme, l'Allemagne a un système d'indemnisation plus sévère que la France sur bien des points. À l'issue de la réforme, il faudra en France justifier de 6 mois de travail sur les 2 dernières années. En Allemagne, il en faut 12 sur la même période. La durée d'allocation est également plus courte en Allemagne, où les moins de 50 ans n'ont droit qu'à 12 mois contre 2 ans en France. Enfin, les Allemands touchent en moyenne des indemnités moins élevées que les Français et les entrepreneurs peuvent là-bas enchaîner les contrats courts sans pénalité. Mais surtout, le régime français a 35 milliards de dettes, je le répète, quand le régime allemand en a 23 milliards en réserve, en positif. Normal, le chômage est moins élevé en Allemagne. Et à la fin, comme on dit, c'est la France qui perd, puisque à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne sur le terrain de l'emploi. Une question posée ce matin par Libération sur le terrain du foot féminin. Pourquoi est-ce si difficile en ces temps de Coupe du Monde d'accorder les fonctions en genre ? La Fédération française de foot continue d'employer les masculins sélectionneurs, entraîneurs sans « eux » pour désigner les « sportives ». Ou alors elle opte pour le faux féminin « défenseur-re » quand l'équipe Libération ou TF1 ose désormais « défenseuse-e ». Sélectionneuse, en revanche, peine à prendre l'avantage. Pourquoi les accords au féminin sont-ils mis sur la touche ? À cause de l'idéologie, des clichés culturels, notamment quand le mot désigne une fonction de direction. Le masculin résiste et le féminin rame. La presse a donc du mal avec « sélectionneuse » auquel elle préfère le masculin sélectionneur. Certains ont surtout très peur d'entraîneuse, qui leur rappelle le plus vieux métier du monde, alors qu'entraîneuse est utilisée sans complexe dans bien des clubs. Mais le plus dur, c'est d'abord vainqueur au féminin. Vainqueuse peine à gagner la partie, Libé s'interroge. Alors faut-il renouer avec le médiéval vaincresse ou le très latin victrice ? Dans tous les cas, conclut le journal, le choix de vainqueur avec un E est pour les femmes une sorte de défaite lexicale, même en cas de victoire.
Vaincresse, dites-vous, ou victrice ?
C'est pas mal, victrice.
Ouais, j'aime bien. Et la victrice est la revue de presse de David Abiker.
Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver le journal de la Coupe du Monde féminine de foot. Europe 1 est la radio officielle de la compétition. C'est avec Jérôme Lacroix.
La Coupe du Monde féminine.
L'événement foot est sur Europe 1.
Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Alors, quel est votre sommaire ce matin ?
Les Bleus, le vent dans le dos, toujours chouchoute du public. Elles l'ont constaté hier au Havre, vous l'entendrez. La Normandie où elles disputent dimanche soir le 8e de finale. Contre qui ? Possiblement les Brésiliennes, qualifiées hier après un succès face aux Italiennes. Et puis elle est l'une des personnalités marquantes de ce début de mondial. Vanina Correa, la courageuse gardienne de l'Argentine.
La Coupe du Monde féminine.
Europe 1, radio officielle.
Bah non, vous entendez, les supporters n'ont pas du tout été douchés par la prestation moyenne des Bleus avant-hier contre le Nigeria. Près d'un millier de fans sont venus hier après-midi encourager les joueuses lors de leur premier entraînement au Havre, qui sera le théâtre dimanche soir du 8e de finale.
Je suis agréablement surpris, je voulais voir ce que ça donnait en direct. J'aime bien cette technique.
C'est mieux que les garçons, ils sont moins douillettes. Hier, j'en ai vu une qui est tombée, elle s'est fait mal à la cervicale. Elle est retournée sur le terrain, tandis qu'un garçon, lui, il serait parti au vestiaire.
Moi, j'ai hâte de les voir sur les Champs-Élysées quand ils vont les descendre.
Ah oui, pas mal, bonne idée ça. Ces Bleus qui sont arrivés hier après-midi en Normandie. Aujourd'hui, nouvelle séance prévue à 10h à huis clos, cette fois à pas de supporters. Et cet après-midi, c'est quartier libre. Les joueuses pourront profiter de leurs proches.
Et le huitième de finale, est-ce qu'on sait enfin qui sera l'adversaire dimanche soir de la France ?
Eh ben non, pas encore pour l'heure. Il faut encore attendre un petit peu. Il faut attendre que les matchs du premier tour se terminent dans les autres groupes. Mais pour l'instant, la probabilité la plus forte, c'est le Brésil. Ambiance samba captée hier dans les rues de Valenciennes. C'est là que se tenait Italie-Brésil, fin du premier tour du groupe C. Plus de 20 000 spectateurs au stade qui ont vu la victoire des Brésiliennes 1-0. Alors un but inscrit sur pénalty par l'attaquante Marta. Alors elle, c'est une superstar, élue oui. 6 fois meilleure joueuse du monde. Elle a inscrit hier son 17e but en 5 participations au mondial. 17 buts, et ben c'est tout simplement le record en Coupe du Monde, filles et garçons confondus. C'est un de plus que l'Allemand Miroslav Klose. A noter également hier le succès 4-1 des Australiennes sur les Jamaïcaines. La capitaine de l'Australie, Sam Kerr, a inscrit un quadruplé, les 4 buts de son équipe.
Et puis on va vous faire entrer ce matin dans les coulisses du groupe France avec une personnalité de l'ombre, mais capitale.
Il s'appelle Richard Ouvrard, 57 ans, et son job c'est la tête la première. C'est le préparateur mental de l'équipe. 2 décennies qu'il exerce cette fonction d'apaisement des esprits des sportifs. Depuis 2 ans, il est auprès de ses bleus du foot. Les moments notamment en tête à tête avec Richard Ouvrard sont une respiration essentielle, détaille la capitaine Amandine Henry.
Ça passe par des questionnaires ou du face à face, parce qu'il y a des choses plus intimes qu'on aime partager qu'avec une seule personne. Et donc, il est là, il est à notre écoute. Il nous aide aussi à progresser individuellement, mais surtout collectivement.
À la fois psy, à la fois confesseur. Exactement. L'équipe à suivre aujourd'hui, c'est l'Argentine.
Écosse-Argentine, 21h. Et on a hâte de voir à nouveau Vanina Correa, la gardienne argentine exceptionnelle d'efficacité et de vélocité dans ses buts depuis le début du tournoi. Mmh. Elle qui est revenue au foot il y a moins de 3 ans, après 6 années de pause, notamment pour donner naissance à Roméo et Luna, ses jumeaux.
Merci beaucoup. À demain, Jérôme Lacroix.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour, comment allez-vous, madame Julie Leclerc ?
Ça va.
Ça va, Julie ?
Oui, ça va.
Il est comment ? Ça donne quoi ? Parce que je vous ai vu déjà corriger, travailler la mouture.
Écoutez,
il a fait combien de versions aujourd'hui, Nicolas Canteloup ?
On va voir, je ne suis pas sûre que vous soyez dans le texte aujourd'hui.
En plus.
Ah bon ? Vous allez voir, il y a un truc.
Ah. Nicolas Canteloup arrive dans quelques secondes. C'est parti.
Un beau réveil sur Europe 1, il est 8h40. Il est 8h42.
Vous l'attendez tous avec impatience, c'est la revue de presse. Voici Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va commencer avec Édouard Philippe qui a annoncé le durcissement des règles de l'assurance chômage. Et justement, on a en ligne quelqu'un qui a préféré garder l'anonymat.
Salut les loups, salut Majoule, c'est Christian. Voilà, j'appelle de pas loin car voilà, j'ai entendu votre info surround sur le durcissement des règles de l'assurance chômage.
Oui, vous vouliez savoir quoi, monsieur, exactement ?
Non, j'ai une petite question. Par exemple, si récemment on vient de perdre son emploi de matinalier dans une radio de grande écoute, est-ce qu'on peut quand même toucher le chômage ?
Bah attendez, ça dépend. Hein. Vous avez trouvé un autre emploi ?
Non. Enfin, j'ai toujours deux, trois petits jobs à côté. The Voice, 50 minutes. Merde. Enfin, des petits jobs, quoi. Merde. Je crois que là, c'est...
Ah là, vous êtes reconnu, là, Nikos.
Merde. Elle a du nez, là, Leclerc.
Bon, dites-moi, vous êtes pointu en cinéma, hein. Vous avez dit que vous saviez que le nouvel opus d'OSS 117 se déroulait sous l'ère Giscard, sur fond d'affaires Bocassa.
Oui, oh, j'ai pas de mérite, c'est parce que je suis assez showbiz et je suis à très pote avec l'intéressé.
Ah bah oui, vous êtes ami avec Jean Dujardin, ça,
on imagine. Non, avec Bocassa.
Eh ben, on en apprend tous les jours, Nikos. Le gouvernement a présenté sa réforme de l'assurance chômage. Les syndicats sont vent debout car les indemnités baissent alors que les cotisations ne bougeront pas. Bonjour Bruno Le Maire.
Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour à Monsieur Aliaga. Bonjour aux autres, les figurants, les sous-fifres dont je suis aussi. Écoutez, il n'y a pas de débat. Cette réforme de l'assurance chômage était nécessaire, je l'affirme. En effet, que nous a appris la crise des gilets jaunes ? Tout simplement que des gens qui peuvent manifester pendant 6 mois sont des gens qui ont trop de temps libre à l'évidence et trop d'argent. Alors je le dis tout de go, les chômeurs friqués qui nous gâchent la vie, ça suffit.
Ben, c'est du joli ça comme idée. Cette réforme, les syndicats sont tous contre, à des degrés divers d'ailleurs, mais de la CGT jusqu'au MEDEF, elle est critiquée. Hein, cette
Écoutez,
réforme.
Madame Julie, j'entends les critiques et je les trouve injustes, réellement injustes. Enfin, les chômeurs peuvent retrouver, grâce à nous, grâce à cette réforme, un nouveau but dans l'existence.
Quoi ?
Bah, c'est d'aider la Sécu.
Aider la Sécu, moi je vois pas le rapport.
Bah écoutez, vous voyez pas le rapport. Si les cotisations restent les mêmes et que les indemnités baissent, forcément, la sécurité sociale gagne à nouveau des sous. Chaque chômeur qui perd de l'argent doit se dire qu'il permet de financer les projets de la sécurité sociale. Donc je dis à mes chômeurs, pense-y, à chaque fois que tu te fais cuire des nouilles à l'eau, au lieu d'un steak, eh bien, quelque part, tu fleuris le rond-point d'un rond-point ou le parking d'une agence pour l'emploi.
Vaut mieux se fier au texte, hein, Nico.
Oui, des fois, on improvise, on dit n'importe quoi. Ça m'arrive régulièrement au Conseil des ministres. En tout cas, je dis à Michaud Mure, c'est mieux que de toucher ses indemnités comme un gros égoïste. Disons les mots.
Eh ben, ils vont être contents avec ça, les chômeurs. Allez, merci Bruno Le Maire. On va revenir sur les soucis de Michel Platini. Vous le savez, il a été placé en garde à vue pour corruption active et passive concernant l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Les faits se seraient passés lors d'un déjeuner à l'Élysée. Bonjour Nicolas Sarkozy.
Quelle indignité. David Pujadas, Mme Pujadas, m'accuser à moi, alors que je ne sais rien de cette affaire. Je ne connais même pas ce Michel Balkany.
Non, attendez. C'est Michel Platini, hein, Patrick Balkany, c'est un autre de vos amis.
Oui, mais décidément, ils n'ont pas de bol avec la justice, mes amis. Bon, bref, je ne vais pas aller sur ce terrain parce que M. Apathy est capable d'en faire une chronique demain. Je ne connais pas ces deux amis que vous me prêtez. D'ailleurs, je ne m'intéresse pas du tout au foot, chacun le sait.
Ah bon ?
Écoutez, je ne connais même pas les règles. Puis après tout, demander à Hollande. Hein, c'est quand même lui qui était à l'Elysée, franchement.
Attention, c'était en novembre 2010, M. Sarkozy. Et le 23 novembre 2010, c'était vous le président.
Oui, mais écoutez, c'est à vérifier quand même.
C'est tout vu, hein.
Non, mais vous êtes marrant, vous, avec vos questions. C'est quoi, c'est qui que j'ai affaire ce matin ? C'est quoi, c'est l'inspecteur Leclerc ou quoi ?
Un peu, oui.
Que faisiez-vous le 23 novembre 2010 ? Non, mais Mme Dacosta, vous ne trouvez pas que c'est un petit feu fort de café ?
Oui.
Est-ce que vous en rappelez, vous, de quoi que vous faisiez le 23 novembre 2010 ? Non,
du tout.
Alors pourquoi qu'on me pose la question qu'à moi ?
Eh ben moi, je vais vous le dire. Vous aviez à votre agenda un déjeuner avec Michel Platini, Claude Guéant et le prince héritier du Qatar pour inciter Michel Platini à voter pour le Qatar. Qu'est-ce qui s'est dit pendant ce déjeuner ?
Mais qu'est-ce qui s'est dit pendant ce déjeuner ? Mais c'est fou, ça, le 23 novembre 2010, qu'est-ce qui s'est dit à ce déjeuner ? Mais j'en sais rien, moi, des trucs aussi banaux les uns que les autres. Comme ferait M. Agas, passe-moi le sel, passe-moi l'huile d'olive, au plat tout pétillant de M. l'émir. Elle est très goûteuse, cette tarte aux pommes. Comment voulez-vous? Moi, je ne me rappelle plus, moi, de quoi qu'il se disait.
Non, comment ça?
À l'Élysée. Je fais des rimes aussi. Mais comment, c'est vous dire si je suis décontracté.
Attendez, comment se fait-il que vous ne vous souveniez pas de ce déjeuner, enfin?
Pourquoi je ne me souviens pas de ce qui s'est dit au déjeuner à table? Pourquoi? Parce que j'étais en cuisine.
Ah oui, d'accord.
Mais oui, il n'y a pas de oui, d'accord, Mme Julie. Je sais que vous allez chez le traiteur, mais moi, quand je reçois les invités à l'Élysée, la moindre des choses, c'est de cuisiner pour ces invités. C'est une marque d'attention. Et je m'en rappelle très bien. Maintenant, je me revois dans la cuisine de l'Élysée. Ah, d'ailleurs, j'avais mon petit tablier rigolo marqué dessus. N'engueulez pas le patron, la patronne s'en charge.
Oh là là, quelle classe.
Oui, tout le monde en a un, des comme ça. Je surveillais mon gratin dauphinois.
C'est
un gratin dauphinois parce que vous savez, les Émirats arabes aiment bien la cuisine du monde.
Donc vous n'avez rien vu de ce déjeuner qui avait pourtant lieu chez vous et il n'y avait jamais eu de corruption, c'est ça?
Qu'est-ce que vous entendez par corruption? Des deux soupes tables, c'est ça? C'est ça que vous insinuez? Dites les mots, Mme Julie, à un moment donné, il faut y aller. Eh bien non, il n'y avait pas des dessous de table. Des dessus de table, ça oui, avec Platini et M. Cabrol. Avec Platini, avec ce qui bouffe le gros Michel, c'est plus les dessus de table que les dessous.
Bon, Platini, lui, déclare avoir perçu le message subliminal quand il s'est retrouvé à table à côté du prince héritier du Qatar. Là, il a tout compris, sur le plan de table.
Il a juste perçu le message subliminal. Mais ça reste un footballeur, Michel. Quoi? Il arrive à l'Elysée. Rendez-vous compte, il y a 30 chameaux dans la cour d'Élysée. Il y a 20 danseuses du ventre. Il y a 40 musiciens qui jouent de la darbouka. Il y a un concert privé de Raleigh. Il y a une Ferrari toute neuve avec un gros nœud doré autour. On l'assoit à côté de l'émir du Qatar. On lui sert un couscous, du thé à la menthe. Et notre Platini qui dit « Je perçois légèrement de façon subliminale qu'il faut voter peut-être pour le Qatar. » Putain. Hey, mon Claude, putain qu'on a bien fait d'en faire des caisses avec mon Claude Guéant. Je ne l'ai pas dit.
Vous avez lâché un nom là quand même. Merci Monsieur Sarkozy, à bientôt. Un point maintenant sur le procès Balkany, jugé pour blanchiment et fraude fiscale. Les époux Balkany sont soupçonnés d'avoir caché 13 millions d'euros au fisc. Bonjour Patrick Balkany.
Oui, c'est ça, bonjour.
Alors vous êtes apparu très en colère.
Écoutez, je n'en peux plus. Ce n'est plus une colère froide, c'est une colère rouge. Je suis à bout. Je vais dire toute la vérité, je balance. Allez.
Ah, et ben voilà, on vous écoute.
Écoutez, c'est Jonathan Daval qui a brûlé nos feuilles d'impôts. J'en ai parlé ce matin avec Monsieur Apathy en privé. Il a procédé à la crémation de nos feuilles d'impôts à Isabelle et à moi-même.
Non, mais dis donc, vous n'avez pas tout mettre sur le dos de Jonathan Daval. Allons.
Mais pourquoi pas? Cet homme est un monstre. Écoutez, quand on y pense, on se dit que finalement, franchement, avoir payé à Monsieur Lacroix une villa pamplemousse en liquide, oui, je vous prends tes mains, vous n'avez rien à voir avec cette affaire, mais moi, faut-il que je m'appuie sur du monde. Avoir payé une villa pamplemousse en liquide, est-ce que c'est si grave que ça? Les juges devraient envoyer ce maniaque en prison au lieu de s'acharner sur d'honnêtes fraudeurs fiscaux comme moi, Isabelle.
Moi, écoutez, ça n'a rien à voir, Monsieur Balkany.
Non mais Madame Julie, allons, ouvrez les yeux. Quand je pense que je n'ai juste qu'acheté une maison, que je n'ai même pas payé avec mes sous, elle n'était même pas à moi. Franchement, je n'ai tué personne. J'ai juste oublié de cocher 3 cases dans un formulaire. Résultat, 7 ans de cabane. Non, franchement, c'est 2 poids 2 mesures.
Eh ben, on vous souhaite bon courage, Monsieur Balkany.
Oui, oui.
Et puis, on se revoit en septembre, c'est ça. Vous avez
cette histoire de septembre.
La décision.
D'accord, oui, elle fait la fille qui est pointure au judiciaire, c'est ça. Oui, mais lisez l'horloge et contenez-vous à votre domaine de compétence.
C'est la réquisition pour le moment, on verra le résultat. Alors, il est 8h51, si vous voulez tout savoir. Bon, où on en est? Alors, vous avez...
On est à page 4, ça fait...
Vous avez été
version 7, voilà, parce que M. Aliagas veut toujours faire le gars pointu qui connaît les versions. On en est à la version 7 et mon procès, on en est où à la version combien? Ça fait 40 ans que ça dure. Allez, c'est
vous avez été très nombreux à réagir aux images de cet automobiliste parisien qui a failli renverser un piéton aveugle et qui frappe son accompagnateur. On accueille Gilbert Montagnier pour en parler. Bonjour Gilbert.
Ah oui? Ah oui. Oui, bonjour. Bonjour Julie, bonjour Nikos, bonjour aux autres, bonjour à tous.
Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a?
Pardon, excusez-moi.
Qu'est-ce qui se passe?
Non, quand vous venez de me sortir du placard des imitations, j'ai un peu de ma chair partout.
Ah oui, ça va faire au moins 3 ans qu'on l'a pas
fait. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on m'a pas entendu. Alors, je dois dire, je vais tout vous dire, chers auditeurs, parce que vous m'entendez, j'adore la radio, parce que voilà, il y a une complicité. Moi, j'étais dans le noir du placard.
Oui.
Bon, ça ne me changeait pas beaucoup de ma vie normale, c'est vrai. Ouais, autodérision. Ouais. Par contre, j'avais un chien. Oui. Quand on est rangé dans le placard, il y a quoi, 3 ans j'avais un... Non, 10 ans. 10 ans déjà. Oh, ça passe vite. Ouais. Il avait un chien, un bon chien. Il est où? Yuki. Ah, ben j'ai toujours la laisse, mais il ne répond pas. Oh, je pense tout simplement, il est mort. Il est mort, le chien. Ça va faire plaisir à Wendy Bouchard, les défendeuses des animaux.
C'est horrible ce que vous dites.
Qu'un chien meurt au bout de 10 ans, ouais, bon, alors, si on ne le nourrit pas, c'est normal.
Gilbert, oui. On voudrait votre... on voudrait votre réaction.
Vas-y, pose ta question, mais Julie, parce que moi, je réponds à toutes les questions.
Alors, oui, votre réaction...
J'adore les questions de Julie Leclerc, qui donne l'heure et qui pose des questions. Des questions politiques, des questions économiques, des fois, elle met son petit grain de sel.
Bon, allez, Gilbert, on voudrait votre réaction à la vidéo de cette agression, l'agression de ce non-voyant et de son accompagnateur.
Alors, Julie, parce que je t'aime bien, je vais te faire une confidence.
Oui.
J'ai pas vu la vidéo. C'est pas très pro, j'aurais pu essayer de la regarder pour en parler.
Bon, on se doute que vous ne l'avez pas vu, mais c'est juste dingue d'agresser une personne non-voyante et son accompagnateur.
Alors, on m'a raconté la vidéo. Le gars roule et il a failli écraser deux personnes qui traversent sur un passage piéton, un piéton avec des rectangles blancs qui s'enchaînent, des piétons. Donc il y a deux possibilités. Soit cet automobiliste est aussi non-voyant. Et là, on ne peut pas trop lui en vouloir.
Ah ben non.
Oui. Je dis, il y a très peu d'automobilistes non-voyants. Je le dis à nos auditeurs, parce qu'on va dire la vérité. Il faut dire la vérité. Nous, les non-voyants, on a un gros taux d'échec à l'examen du permis. Oui. Alors, soit ce conducteur est non-voyant, soit il est atteint d'un handicap très répandu chez l'automobiliste parisien.
Mais c'est quoi ce handicap?
C'est un gros con. C'est très handicapant d'être un gros con. Puis c'est pas indemnisé par la sécurité sociale. Oh non, c'est pas indemnisé. Souvent ça frappe l'automobiliste parisien au moment où c'est marrant, ça le frappe, ce handicap, au moment où il rentre dans sa voiture. Puis heureusement, ça s'arrête quand il en ressort. Heureusement, hein, oui. Alors vraiment, bon courage, parce que j'ai beaucoup de compassion pour l'automobiliste parisien. Bon courage à cet automobiliste frappé de la grosse connerie, car il va vivre toute sa vie avec ce plus terrible des gros handicaps. Oui, en liberté.
Bravo, remarquable. On est content d'avoir retrouvé cette imitation qui était, qu'on l'est sorti du placard.
Je suis certain que ça ferait rire Gilbert Montagnier.
Mais oui, mais il nous l'avait dit, il adore.
Bravo Nicolas Canteloup, bravo aux auteurs Laurent Vassilian, Arnaud Demange, Philippe Cavrivière et bien sûr Julie. Wendy Bouchard, le tour de la question, ça commence dans 4 minutes.
Exactement, bonjour chers amis, avec deux thèmes, les 50 ans du premier vol d'essai du Concorde, 50 ans de la naissance d'Airbus, les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune, tout ça est commémoré en ce moment au Salon du Bourget, où l'on parle aussi de l'avion évidemment de combat de demain, de l'avion civil du futur. Michel Polaco et Alain Sirou seront avec nous, on a deux experts pour parler de ciel et d'espace ce matin. Puis à 10h, on va raconter la France en l'observant, en la sillonnant. Il l'a traversé à pied, notamment Sylvain Tesson. Et Eric Fotorino publie une revue formidable, Zadig, toutes les France qui racontent la France. Voilà, on va se faire plaisir pour parler de notre pays, de sa diversité.
À tout de suite, Wendy Bouchard, avec plaisir.
Elle attend vos appels dès maintenant au 3921 à suivre la météo et l'essentiel de la matinale.
Il est 8h57 à suivre l'essentiel de la matinale avec Bonicos, mais tout de suite la météo. Laurent
Cabrol. Bonjour Laurent Cabrol, les orages.
Les orages et une tendance pour la semaine. Tenez, aujourd'hui, mercredi, des orages partout, sauf en Méditerranée, dans le sud-ouest, où ce sera plutôt calme. Jeudi, des orages dans l'est, soleil voilé au nord, ce sera demain. Vendredi, jour de la fête de la musique et de l'été, des orages dans le sud et dans l'est, soleil sur la moitié nord. Samedi, dimanche, ça s'arrange pour tout le monde, presque tout le monde. Lundi, mardi, mercredi prochain, ce sera temps ensemble ou chaud et sec, ou chaud et orageux. On n'est pas encore, on n'a pas encore tranché.
Voilà. Merci beaucoup, Laurent Cabrol. À propos de la fête de la musique, on sera aussi avec Mathieu Chédid.
Mathieu Chédid. On revient, Nikos, sur les moments forts de cette matinale.
Michel Platini, sorti de sa garde à vue pendant la nuit, il était entendu hier matin dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de corruption autour de l'attribution de la Coupe du Monde de foot du Qatar. Il s'est confié à sa sortie au micro d'Europe 1 avec Jihan Bergaoui, on l'écoute.
Ça a été long, mais vu le nombre de questions, ça devait être que long, puisqu'on m'a quand même posé des questions sur l'Euro 2016, la Coupe du Monde en Russie, la Coupe du Monde au Qatar, le Paris Saint-Germain, la FIFA. Et donc j'ai répondu, voilà, tranquille à tout ça, en sachant pas pourquoi je suis là, quoi, mais bon.
Vous avez le sentiment de faire l'objet d'un acharnement ?
Ça fait mal, quoi, hein, ça fait mal pour tout ce que je peux penser, tout ce que j'ai fait, ça fait mal.
À 7h20, nous vous dévoilions notre enquête sur le trafic de cocaïne qui explose entre la Guyane et la métropole. À l'ouest de la Guyane, à la frontière avec le Suriname, notre reporter Théo Manval a pu interroger des mules, vous savez, ces petites mains qui font passer la drogue dans l'avion, et c'est un document rare, exceptionnel. Écoutez, c'était dans Europe 1 va plus loin.
Lui là-bas, il l'a fait au mois d'octobre. Il a emmené 6 kilos de cocaïne scotchés sous ses vêtements, autour des jambes et de la taille. Moi, j'ai transporté 800 grammes dans mon corps en avalant des capsules. Un pari risqué, mais qui rapporte, puisque selon les douanes, une mule peut recevoir entre 3 000 et 10 000 euros par trajet, selon la quantité transportée.
Enquête signée Europe 1 va plus loin, à retrouver en intégralité sur le podcast europe1.fr. Voilà pour l'essentiel. Merci à vous de nous faire confiance. Prenez soin de vous, bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Wendy Bouchard-Harry, dans quelques secondes, avec le tour de la question. Julie l'accompagne. Ma chère Céline Dacosta, je vous dis à demain.
Avec grand plaisir, Nico, et merci à vous.
Bye bye.